Bonjour et bienvenue dans Troisième Relais, le talk show français qui parle du championnat du monde d'endurance WEC. Nous sommes ici dans les locaux de Baltic qui nous ont gentiment prêté leur showroom. Baltic, marque de montre française, dont je remercie Étienne, son fondateur et toute son équipe de nous accueillir ici pour pouvoir parler de ce que j'aime, du championnat du monde d'endurance, du sport automobile et surtout des gens qui le font et des histoires qu'ils ont, parce que je pense que ça a le mérite d'être raconté et d'humaniser notre sport, de l'ouvrir le plus possible et de parler à tous les gens qui veulent venir voir une course et qui veulent découvrir ce que l'on fait. Je pense que c'est important. Pour faire ça avec moi aujourd'hui, j'ai appelé trois de mes potes qui comptent beaucoup pour moi et avec qui je suis très content d'être là, parce que ils ont la même passion que moi. Ils ont tous les trois poussé pour qu'on fasse ça tous ensemble. On est sortis de notre zone de confort. On a décidé de produire ça, de proposer notre produit, et je suis très content d'être avec eux aujourd'hui. Premier invité que je vais présenter maintenant, c'est Guillaume Nedelec, mon ami de chez West France, journaliste, écrivain, qui a produit deux livres, la F1 en 80 tours et 24 heures de malheur. 24 heures de malheur. Merci Guillaume d'être avec nous.
Bonjour Gabriel, merci de nous recevoir ici.
Avec plaisir, merci. Bonjour, d'être Guillaume. Là.
Et puis, bah, que de temps passé depuis le temps où on s'est croisé sur une machine à pneus aux 24 heures du Mans en 2020.
En 2020, on en parlait à dîner, comment est-ce qu'on s'était rencontré, encore une histoire lunaire.
Ah ouais, c'est une agression, je suis arrivé, on parle des pneus. Au fait, le LMP2, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, on se connaissait pas du tout. Et on avait un ami en commun qui nous avait mis en contact, il m'a dit, ouais, il est super Gabi, tu vas voir. Bah, effectivement, j'ai pas eu à me plaindre. Donc, aujourd'hui, on est.
Quelle année tu disais ?
2020. Okay. C'est l'année où, en fait, on était quatre journalistes à avoir accès au paddock avec le Covid.
Okay, ouais.
Et donc, on s'était dit. J'avais énormément de facilité à voir les pilotes, ce qui était plus compliqué les années d'avant.
Ouais.
Et c'est. Bah, franchement, là, je me suis plus du tout posé de questions. Est-ce que je gêne ? Est-ce que j'embête ? Non, bah, je suis allé embêter, tout simplement.
Ok.
Et donc ouais, bah moi les 24, ça fait un petit moment. 24 endurance, ça fait
longtemps que t'es là. Bah hein, mais toi, tu portes ça dans ton cœur. T'habites au bout de la piste, à 5 minutes.
C'est ça, ouais. La maison, le jardin, il donne pratiquement sur le circuit. On va dire ça. Non, moi j'ai commencé. Moi, je fais du journalisme parce que j'ai toujours rêvé de couvrir les 24 heures du Mans. Moi, la première édition où je suis allé, c'est 2006. Je me souviens très bien. La première voiture de course que j'ai vu rouler, c'est Sébastien Loeb sur la Pescarolo.
Donc, la passion vient de là, en fait.
Voilà. Et avant ça, les 24 heures du Mans, mon premier vrai souvenir des 24, ça doit être 2000 avec la Dodge Viper qui était rouge avec des bandes blanches.
Elle de chez Oreca,
à Daytona. Ouais. Ah ouais, c'était un truc extraordinaire.
On a tous commencé avec une voiture comme ça qui nous a marqué. Elle marque pas forcément les autres, elle a pas forcément marqué l'histoire, mais nous, il y a un truc avec ces voitures-là.
Ouais, ouais, et puis il y avait le V10, il y avait cette ligne qui était complètement invraisemblable. Et puis bon, bah, moi, allez, en 2000, j'ai 8-9 ans. Donc, mine de rien, dans un imaginaire de petit garçon, c'est vraiment une voiture qui m'a fait rêver. Et à partir de là, moi, les 24 heures du Mans, ça m'a toujours plus plu que la Formule 1, que le WRC, pourtant que j'adorais à l'époque, et c'était un truc de fou aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, bah, je suis devenu journaliste. Et depuis 2012, je couvre en tant que journaliste. Puis, bah, moi, j'ai à côté de moi un homme d'influence, Franck, alias Guillaume, ou Guillaume alias Franck, comme tu veux.
Exact. Oui, c'est vrai que Franck est un pseudonyme pour les gens qui l'ignorent. Ouais, j'aime pas trop le terme influenceur, c'est plus
créateur de contenu.
Créateur de contenu. En fait, mon but, ça a jamais été d'influencer personne. C'est juste, j'ai une passion pour l'endurance et on voit sur les réseaux sociaux et tout qu'on est inondé de contenu, notamment depuis Drive to Survive, de contenu F1, avec tout le monde qui devient créateur de contenu F1, alors que, enfin.
Regarde, même nous, on est devenus créateurs de contenu endurance, regarde.
C'est pas qu'il y a des gens légitimes et d'autres non, mais c'est juste qu'en fait, il y en avait énormément en F1. Et au début, en fait, je parlais de F1 aussi. Et j'avais cette passion pour l'endurance qui m'est venue assez tardivement par rapport à vous. Mais et je me suis dit, mais en fait, personne n'en parle. Et pareil, énormément d'histoires. Et c'est pour ça que je me suis branché sur l'endurance. Assez compliqué d'engager les gens sur ces sujets, mais moi, j'adore ce que je fais.
Puis j'exagère un peu parce que c'est aussi ton métier, tu travailles dans le paddock.
C'est vrai que je travaille dans le paddock, je travaille depuis 3 ans en WEC avec une écurie française que je suis sur le championnat du monde. Et pareil, je fais toute la communication digitale pour eux. Et c'est cool.
Puis bah, à côté de toi, on a l'excellent Olivier Berta, que nous, on ne voit pas beaucoup à l'écran, mais par contre, on voit...
On l'entend. Moi, je l'ai entendu beaucoup cette semaine. Souvent, ouais.
On voit son influence en piste, par contre, pour faire un petit jeu de mots, allez.
Je suis influenceur de course.
On va appeler ça comme influenceur de... Il influence la course directement.
Influenceur de
lui.
Course. Ouais, donc Olivier Berta. Très similaire de Guillaume, un peu mon histoire du Mans. Moi, mon premier souvenir du Mans, ça a été 1997. Mon père m'emmène à la sortie d'école un mercredi soir. Et on va voir le virage d'Arnage. Et là, la première voiture pour moi qui m'a marqué, c'est la Panos Espérante GTA. Et donc ça, c'est un souvenir. Voilà, c'est pas une voiture qui a gagné quoi que ce soit au Mans ou qui a fait des résultats incroyables, mais c'est une voiture qui marque. Pour moi, c'est la Batmobile, quoi. Quand t'arrives à 7 ans au Mans et que tu vois cette voiture. Donc ouais, donc là, l'histoire du Mans a commencé comme ça et très similaire de Guillaume, en fait. Moi, la F1, je suis passionné aussi d'F1, j'aime bien ça. Mais je me suis jamais projeté, en fait, en termes d'ingénieur, de me dire, je vais aller faire de la F1. Toujours, ça a été mon but, je veux être ingénieur aux 24 heures du Mans. Et donc voilà, et donc maintenant, ça fait 10 ans déjà, 10 éditions en tant que participant aux 24 heures du Mans. Et beaucoup d'autres aussi avant en termes de spectateurs. Mais
Qu'on a fait ensemble, surtout, participation aux 24 heures du Mans.
Exactement.
Bertie, qui est dans... très humble, qui oublie un peu de dire quand même que monsieur est champion du monde en LMP2 avec Jota, Will Stevens, Da Costa et Gonzalez. Donc, t'as gagné un championnat du monde 2022. Ouais. Tu fais deuxième aux 24 heures du Mans ensemble Non, on était pas ensemble en 2019.
Non.
C'était un autre ingénieur, c'était Taka, mais on était dans la même équipe et t'as été mon ingénieur pendant un an derrière en 2020, pendant le Covid. Et tu as gagné Le Mans.
En 2022?
2017, tu n'étais pas encore chez Jota.
Non, pas encore chez Jota.
Ah, donc... Et juste pour expliquer aux gens qui sont novices, du coup, tu es race engineer?
Ouais, donc ingénieur, donc le terme anglais, ouais, c'est race engineer. Le terme français, c'est ouais, ingénieur de course.
Et ton job, c'est de...
Donc en fait, le job d'un ingénieur de course, ça va être c'est un peu le manager de l'équipe, en fait, de la voiture en elle-même. Voiture, donc ouais. Il va être en fonction de la voiture, gérer les réglages de la voiture. Il y a aussi d'autres ingénieurs qui vont l'aider dans cette direction-là. À quel réglage on va avoir sur la voiture pour avoir la meilleure performance, utiliser moins les pneus, utiliser moins d'essence, des choses comme ça. Et puis après aussi, sélectionner la stratégie en course. À quel moment on va s'arrêter, à quel moment on va changer l'essence, à quel moment on va changer les pneus, à quel moment on va changer de pilote, toutes ces choses-là en fait.
Okay, ouais.
Donc ça, l'ingénieur en course, et aussi faire en sorte que les mécaniciens, ils vont savoir ce qu'il faut faire sur la voiture en termes de réglage, toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de management aussi derrière en termes de comment on parle aux pilotes, les termes qu'on veut utiliser, le ton qu'on veut utiliser en fonction des pilotes, ça peut changer beaucoup aussi.
Et tu vois, je suis assez content qu'on soit tous là parce que en écoutant l'histoire de chacun, en fait, Guillaume, Olivier et moi, on est tous arrivés au Mans par nos parents un peu qui nous ont amenés là le plus jeune. Et toi, Franck, tu fais le boulot que les parents peut-être ne peuvent pas faire en montrant nos sports, en montrant ce qu'on fait au plus de monde possible avec les réseaux sociaux, Internet, chose qu'on pouvait pas faire avant. Mais ce métier-là de ce que tu fais, pour moi, est super important parce que tu ouvres les portes aux gens qui peuvent pas forcément se déplacer sur une course parce que c'est loin, parce que tu as du déplacement, ça coûte cher. Et toi, tu le fais par Instagram, t'as pas TikTok.
Si, je fais pas
Instagram, TikTok et YouTube, principalement.
Ouais.
Et ce boulot-là, je trouve qu'il est vraiment cool et il faut qu'on... Je suis content qu'on montre ce qu'on fait et les personnes qui sont derrière.
Une petite question, Franck, on a oublié de te poser, toi, la question. Est-ce que tu as une voiture qui t'a marqué, toi, depuis que tu suis les 24 heures du Mans?
Moi, j'ai pas une voiture duquel je suis amoureux. Enfin, dans le sens où il n'y avait pas un truc qui m'a marqué, mais j'ai développé un espèce de truc avec l'Oreca 07, qui est une voiture beaucoup plus récente, qui arrive en 2016, je crois. Et c'est vraiment une balle de guerre que j'aime énormément. On sent qu'elle a un peu vieilli, mine de rien, avec toutes les
voitures françaises,
toutes les hypercars qui arrivent.
La France, s'il vous plaît.
Ouais, c'est totalement français, Oreca en plus. Et non, j'adore cette caisse. J'étais un peu triste quand on a appris le départ des LMP2 en WEC, mais bon, on les a toujours au Mans, donc on aura l'occasion d'en reparler, je pense.
WEC, du coup, je pense qu'il faut le définir pour les gens qui nous écoutent.
Juste avant, quand même, parce qu'il y en a un qui parle depuis le début, mais c'est quand même Gabriel Aubry. On parle de LMP2, on a parlé de Race Engineer, on a tous un contact avec Gabriel Aubry. Tu fais quoi dans la vie, toi, Gabriel?
Eh ben écoute, merci de poser la question. Des fois, je me pose la question aussi, tu vois. Écoute, moi, je suis pilote automobile, principalement en championnat du monde, d'endurance en championnat d'Europe et aux États-Unis. Ça fait maintenant 7 ans cette année que je fais ce championnat-là dans cette voiture, dans la fameuse voiture dont Franck parle, l'Oreca 07. Une année avec Ferrari dans une autre catégorie. On expliquera les catégories et ce qu'est le championnat du monde pour ceux qui n'y connaissent pas. Mais ouais, 7 ans, j'ai commencé le sport automobile bah, comme tous les pilotes en fait à 5 ans. Je suis un peu parti de l'école traditionnelle, parti à l'école à domicile à 14 ans, aller habiter en Italie, faire du karting. Et le sport auto, c'est un peu ma vie, c'est ma passion. Et cette année, le fait marquant, c'est que pour moi, les 24 heures du Mans, ça sera ma 18e édition sur la piste. Donc, ce sera la 7e en tant que pilote. Mais du coup, 11 éditions en tant que spectateur pendant l'année du bac, hein, clairement, rien à secouer. Je suis parti là-bas le samedi dimanche. J'ai quand même bien réussi mon épreuve du lundi matin. Mais de toute façon, je savais que j'allais regarder toute la nuit à la télé. Je me suis dit, bah, je vais aller là-bas parce que de toute façon, que je sois chez moi ou pas, je vais pas dormir et je vais pas réviser non plus. Donc, ouais, le Mans, pareil, ça a été un truc où je me suis dit depuis que je suis petit, j'irai pas en F1. Parce que c'était, j'avais la passion du Mans. Parce que je me suis dit ça parce que je savais que j'irais pas en F1 et honnêtement, je pense que de toute façon, même si je voulais y aller, j'y serais pas allé parce que j'ai pas compris ce que les autres pilotes avaient compris à mon âge. Je vois des Lando Norris qui m'ont marché dessus, donc je fais ce que j'aime et je suis vraiment content de le faire. Voilà le championnat du monde.
C'est un joli parcours.
Pardon ?
C'est un joli parcours.
Je suis content et puis tu rencontres des gens qui sont incroyables. Tu voyages dans le championnat du monde. On va rappeler ce que c'est tout à l'heure et combien de courses dans combien de pays différents. Mais je pense qu'un des plus beaux trucs du championnat du monde et moi ce qui me plaît, c'est qu'on a la chance de voyager tous les ans au Japon, d'aller à Kota, d'aller aux États-Unis, donc au Texas, en France, en Italie, au Brésil. Et il n'y a aucun métier au monde où tu peux rencontrer des gens, où tu peux t'arrêter pas 3 jours dans un endroit comme ça. Ça, pour moi, c'est une chance incroyable.
Donc toi, tu as participé au championnat du monde d'endurance. On va en parler justement de ce championnat du monde d'endurance qui, cette année, nous intéresse tous beaucoup. On est à quelques jours après les 1812 km du Qatar. Ce championnat du monde d'endurance, ça fait maintenant 12 ans qu'il existe, puisqu'on est à la 12e saison de ce championnat. Il rassemble les plus grands constructeurs automobiles aujourd'hui. Olivier, Franck, est-ce que vous pouvez nous dire quelle catégorie il y a déjà en championnat du monde cette année ?
Bah, on a deux catégories. On a l'hypercar et le LMGT3. On va pas faire l'historique, mais avant, l'année dernière, on était sur du LMGTE avec des LMP2. Donc là, il y a eu un petit remaniement des réglementations quand même.
Beaucoup de lettres un peu bizarres quand même.
Quand ouais. Quand on dit hypercar et LMGT3, donc hypercar, c'est des voitures qu'on va voir que sur les circuits, qui ont des formes assez atypiques, que tu vas voir que sur les circuits de 24 heures du Mans, donc avec un cockpit fermé, les roues pareil fermées, donc qui sont quand même assez différents d'une Formule 1, un gros aileron à l'arrière, des gros pneus, des choses comme ça. Donc ça, c'est des voitures qu'on verra jamais sur la route. Et les LMGT3, c'est des voitures que tu peux voir sur la route.
L'été sur en tout cas. Voilà, l'idée c'est que ça ressemble à une voiture.
Ça va être une Porsche, une Ferrari, une Aston Martin. Donc ça va être des dérivés de belles voitures qu'on peut voir sur la route. Donc forcément, c'est pas des voitures qui peuvent aller sur la route parce que c'est pas homologué. Mais c'est des belles voitures qui sont dérivées. Donc, c'est des voitures qui sont assez différentes en termes de performance. T'en as une qui va aller beaucoup plus vite que l'autre. Donc, c'est aussi pour ça que le championnat du monde d'endurance, il est intéressant parce que tu as toujours des dépassements, en fait. Tu as toujours un peu des contacts, des voitures qui vont plus vite que d'autres, qui se dépassent, des pilotes avec des performances différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que tu as aussi cette question de trafic, de passer, de doubler qui est intéressante.
Et dans sa structure aussi, d'organisation du championnat, donc tu as toutes ces voitures, mais tu as aussi en fait un fil rouge de course qui est vraiment intéressant avec un point d'or quand même que tout le monde connaît, ou en tout cas s'il y en a qui ne connaissent pas, bah, il faut connaître à tout prix. Il y a les 24 heures du Mans et tout autour ce championnat qui se construit autour de cette course quand même qui reste majeure dans la saison.
Ouais, je pense que c'est ça le championnat du monde. Moi, quand je parle aux gens, je demande toujours, est-ce que vous connaissez les 24 heures du Mans? Donc là,
normalement, on te dit oui.
Normalement, les gens, les Français connaissent, que c'est comme un monument de la culture française, les 24 heures du Mans. Et donc ça, c'est la course la plus connue. Et autour de cette course la plus connue, il y a d'autres courses qui sont un peu plus courtes, de 6 heures, 8 heures, 10 heures, avec les mêmes voitures. Et en fait, quand tu rassembles toutes ces courses-là de différentes distances, ça fait un championnat du monde. Donc, avoir des points à chaque course et à la fin de l'année, et un championnat du monde hypercar, un championnat du monde LMGT3.
Ça fait deux grosses échéances quand on est dans une équipe, parce qu'il y a les 24 heures du monde qu'on souhaite gagner, puis après il y a le championnat qu'il faut aller chercher, donc il ne faut pas se relâcher, quoi.
Ouais, et puis au final, on a toujours dit que Le Mans était presque aussi important, mais pas tant que ça, quoi. Il y a derrière quatre autres courses sur le championnat du monde. Tu te sers en fait des premières courses pour te préparer toi, pour préparer l'équipe. Et Le Mans, c'est tellement grand, c'est pas juste une course pour nous, c'est quasiment deux semaines sur place en fait. Donc d'avoir l'équipe qui se soit rodée déjà sur les trois premières courses, donc la première qui est au Qatar, la deuxième qui sera à Imola dans pas longtemps, et après Spa en Belgique, c'est important pour nous, pour déjà que tout le monde se connaisse, qu'on commence à appréhender la voiture, peut-être qu'on a apporté des nouveautés sur la voiture par rapport à l'année dernière, et tu gardes ce momentum après Le Mans en fait. Si tu veux gagner le championnat, il faut vraiment pas que tu te relâches derrière Le Mans et que tu gardes jusqu'à la fin.
Alors il y a une particularité aussi sur championnat, parce qu'on va prendre la référence que tout le monde connaît, c'est la Formule 1, c'est un gars dans une voiture, là on a trois personnes dans une voiture, deux quand on est en championnat du monde pour certains, mais on partage la voiture, il n'y en a pas qu'un seul qui est au volant. Ça c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, en tout cas à gérer quand on est pilote peut-être.
Bah, tu partages la voiture avec quelqu'un, donc déjà tu as une question d'ego entre pilotes, où c'est la seule catégorie au monde où tu rends la voiture à quelqu'un d'autre. Donc si déjà tu t'entends pas très bien avec la personne qui est à côté, et je vois sourire à côté, tu vois, on a des histoires. Tu sais que tu peux mettre en péril un peu la course de l'autre, mais quand tu penses à ça en fait, tu te dis que tu te mets en avant et tu mets pas la voiture en avant. Et à partir du moment où tu comprends qu'en endurance, c'est pas toi qui gagne la course, c'est plus à propos de toi, c'est à propos de la voiture. Et si tu dois passer pour un clown entre guillemets, hein, si tu dois être lent pour une question de stratégie, ça peut être ton ingénieur qui va te dire d'économiser des pneus, d'économiser de l'essence sur le relais. Tu auras l'air un peu lent sur la piste, mais tu fais ça parce que ça va donner une stratégie à la voiture, et au final c'est toi qui seras sur la plus haute marge du podium avec tes coéquipiers. Et c'est là où l'aspect humain de l'endurance, il est encore plus important qu'en F1, par cette question de changement de pilote et de partage, et par aussi la durée de la course, parce que notre plus petite course à nous, c'est 6 heures. On fait les courses de 6 heures, de 8, 6 heures, 8 heures, 10 et 24. Donc la plus petite course qu'on puisse faire, déjà, elle fait 2,5 fois un Grand Prix. Déjà, la durée du truc, tu peux pas l'appréhender de la même façon qu'un Grand Prix où tu te dis, bah, je fais une stratégie courte, je tente un truc, si ça marche pas, ça marche pas. T'as toujours des trucs à aller chercher, il va toujours se passer quelque chose, et la place de l'ingénieur en stratégie, en WEC, elle va être importante, parce que comment est-ce qu'il va switcher d'une stratégie à l'autre quand il se rend compte que ça marche pas? Et là, des histoires d'ingénieurs qui s'insultent derrière, ils sont 15 à jeter des trucs, et toi t'es dans la voiture en train de te promener, t'as l'impression que tout va bien, à la radio il a une voix très posée, alors que derrière tu sais pas que c'est la guerre, quoi.
Il y a un truc qui est assez amusant aussi, et c'est ce que tu disais, c'est qu'on parle presque plus des voitures que des pilotes. Par exemple, quand on va faire, enfin dans mon métier, quand on fait les classements, on va marquer c'est la Toyota numéro 8, la Toyota numéro 7, la Ferrari numéro 50. Et après, entre parenthèses, on va mettre le nom des pilotes. Alors qu'en F1, on va dire c'est Hamilton qui a gagné. Ça, c'est assez rigolo aussi, je trouve, le changement un peu de monde que tu as par rapport à la F1 où tout est autour du pilote. Là, c'est l'inverse. Tout est autour de la voiture. C'est assez amusant, non ?
C'est marrant parce que c'est autour de la voiture, mais parce que c'est la voiture qui fait 100% de la course, alors que le pilote va pas, lui, faire 100% de la course. Il va changer. Donc je pense que c'est pour ça qu'on met la voiture en avant. Parce que c'est vraiment, elle, entre guillemets, la star de la course, la voiture. C'est elle qui commence, elle qui finit, et le pilote, bon, lui, il va sortir la voiture, se reposer, remonter dedans à un autre moment après son coéquipier, mais je pense que c'est pour ça la différence.
Oui, et puis je dirais presque que ça représente aussi l'équipe, parce que on parlait de la stratégie, justement, mais tu as les arrêts au stand. Contrairement à la F1, on change les pneus, on refait le plein d'essence. En fonction de ce qu'on va décider en termes de plein d'essence, tu peux jouer sur ta performance, tu peux jouer sur les safety cars, etc. On demande beaucoup aussi à l'instinct de l'équipe, entre guillemets. Il y a vraiment une importance de l'équipe en endurance. Tu étais un peu plus forte même qu'en F1. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Franck ?
Bah, non, moi, je suis fan de ce sport, est génial, en fait, parce qu'une fois que t'as vraiment compris la philosophie de ce sport, et surtout quand tu viens de la F1 ou que tu connais un peu la F1 et que tu vois effectivement que c'est des courses ultra sprint où les mecs sont solo. Enfin, on sait que c'est un sport d'équipe, évidemment, il y a 200 mecs derrière la voiture. Mais.
C'est juste pas la même approche, quoi.
En fait, c'est pas la même approche, et c'est ça. Et quand tu vois que. En plus, en fait, c'est ça. Les voitures sont des stars, mais cette année en WEC, et enfin, depuis 10 ans, évidemment. On a vraiment des mecs, c'est des rockstars. On a des vrais pilotes C'est pas tous les mecs qui ont
notamment
échoué
dans
la
l'équipe
F1,
où tu bosses. Toi, t'as des pilotes, t'as un nom dans le tien, je te laisse le dire.
Ouais, mais tu vois, c'est même pas à lui que je pensais, hein, vraiment. Mais non.
On parle de Mick Schumacher quand même. On parle de
Mick Schumacher. Mais
qui fait équipe avec Nicolas Pierre, notamment, c'est un petit monsieur quand même.
C'est notre rockstar, mais tu as un nom comme Schumacher.
Voilà,
c'est
en fait,
unique.
Ça, c'est un très bon exemple. Quelqu'un comme Mick Schumacher, fait vachement parler. Le WEC, ils l'ont poussé tout le week-end avec Button et De Vries, voilà. Mais quelqu'un comme Nicolas Pierre, ça fait, il est dans le championnat depuis la première course, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ce mec est une brute. Tu
parles de Jenson Button et Nick De Vries, Mick Schumacher, donc trois pilotes qui étaient en F1 dans les un champion du monde en 2009 de Formule 1, un qui et les deux qui étaient en 2023 et 2022 en F1 quoi.
Bah, si donc, tu as parlé de Nicolas Pierre, si je me trompe pas, il a fait de la F2, enfin à l'époque où ça s'appelait du GP2, il me semble qu'il a roulé, il a dû rouler chez Dams pendant un petit moment, je crois. Hein.
Tout le monde, t'as eu beaucoup de pilotes de F1 qui sont là, mais. Ouais, c'est peut-être un partage. Tout le monde est remis au niveau de la voiture. Vraiment, peu importe qui t'es, tout le monde est mis au niveau de la voiture. Ça, c'est assez cool, mais c'est vraiment particulier à ce qu'on fait, quoi.
C'est ça. Mais tout ça pour dire que ouais, on a vraiment des pointures en WEC, et pour autant, ouais, on met les voitures en avant. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait, tu te rends compte que, je sais pas, j'ai l'impression que les pilotes sont hyper plus accessibles. En fait, ils ont moins de, c'est pas, ils ont moins de pression sur les épaules, mais ils sont moins le centre de l'attention, dans le sens où c'est vraiment la voiture, la rockstar. Et du coup, je sais pas, c'est ça aussi qui, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que ce sport peut vraiment, si on arrive à percer cette bulle et à aider les gens à le comprendre, en fait, tu te rends compte à quel point c'est génial, quoi.
Moi, je trouve que justement, dans les pilotes, on a le parcours de Gabi qui nous racontait le sien, mais tu as des parcours qui sont vraiment invraisemblables. On parle de Nicolas Pierre, c'est un gars qui a été très haut, qui est descendu très bas, qui est remonté très haut aussi à la force des poignets. On peut parler de Jenson Button qui se relance, il a quand même conduit des voitures
champion du monde de Formule 1 en 2009, quoi.
Voilà, c'est donc, ça. Et puis, il débarque en endurance sur une LMP1, après, il pilote une NASCAR, là, il retrouve une hypercar. Enfin, c'est des parcours qui sont complètement fous.
Et ce week-end, on en reviendra parce que c'est dans l'équipe de Berti que Jenson Button court quand même, ça c'est incroyable. Il est dans la même voiture que deux gamins, entre guillemets, c'est des mecs de mon âge, qui ont entre 22 et 25 ans, avec un mec qui est champion du monde de F1. Ouais. Tu les mets au même niveau que ça, en fait.
Ouais, moi, il m'a fait beaucoup rire parce qu'en conférence de presse, il est arrivé et il a dit, il y a un truc qui est un peu vexant pour moi, c'est que mes équipiers, ils étaient pas nés quand moi j'ai commencé à faire de la F1 1999. Et il rigolait là-dessus.
Ouais, c'est ça.
Et à côté de ça, on est quand même en train de me dire que je suis un jeune pilote en endurance.
C'est un rookie presque.
Ouais. Ouais, il a été convoqué du coup il y a le briefing des newcomers et tout. Il devait y être.
Briefing des débutants. Ouais.
Des débutants.
Alors que
le mot est horrible.
Non, ça c'est quand même extraordinaire. Donc, justement, on va pouvoir en parler. On va rentrer dans le vif du sujet, si ça vous dit, messieurs.
Parce qu'on a la chance d'avoir trois mecs, parce que je parle de vous, hein, je m'inclus pas là-dedans, qui étaient à la première course du championnat du monde ce week-end.
Donc, j'étais au Qatar, sur le circuit de Losail, le billard de Losail, comme on dit à certains de nos confrères. Donc, un circuit qui était réputé pour la qualité de son macadam, on va dire. Si vous me permettez.
C'était pas un circuit qui était fait pour la voiture, hein, Berti.
On va laisser la parole à Berti. Ouais.
Ouais, en fait, c'est un circuit qui a été fait il y a une dizaine d'années pour la MotoGP à l'époque, avec des virages assez larges, avec des courbes vraiment avec des grands angles, en fait, pas beaucoup d'épingles, pas beaucoup de chicanes, de choses comme
ça. C'est pas fait pour la voiture. C'est juste pas imaginé pour la voiture.
Exactement. Donc avec beaucoup de tarmac partout, enfin beaucoup de, il y a pas de bac à gravier. Il y a pas d'herbe, il y a pas de murs, enfin les murs, donc c'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup d'accidents parce que c'est la nature du circuit qui fait ça. Exactement. Et en fait, pour doubler, c'est pour ça qu'au final la course a été intéressante à la fin, mais quand même assez ennuyeuse pour moi. J'ai trouvé
au milieu
pendant 8-9 heures, parce qu'en fait c'est très 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 compliqué de dépasser. En fait, il y a pas un freinage où les pilotes pouvaient arriver et lancer le freinage, donc il y a eu quelques déplacements normal au fait dû des performances différentes des voitures, mais à voiture similaire, c'était impossible.
En fait, il y avait presque un dépassement. C'était au premier virage d'aller à l'extérieur où il n'y avait que le premier virage. Où moi, j'ai vu des dépassements en commentant la course sur la chaîne L'Équipe. Après, le reste, c'était en utilisant les autres voitures, les GT3 par exemple, en utilisant le trafic.
Ouais. Ouais. Alors, pour remettre un peu de contexte, on parlait des 2 semaines du Mans. Là, ça a été pratiquement les 2 semaines du Qatar, parce qu'il y a d'abord eu les essais entre guillemets d'avant-saison officielle, qu'on appelle le prologue sur ce circuit, et ensuite une course de 1812 km, donc la deuxième course la plus longue de la saison. Donc, ce qui a fait une longue semaine pour ceux qui étaient sur place, vous deux, vous étiez sur place pratiquement tout le temps depuis le début.
Ouais, carrément, carrément. Et en plus, le prologue a été décalé. Je sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais on devait rouler samedi, dimanche, une semaine avant la course. Et en fait, il y a eu un problème de fret maritime. Ce qui fait qu'on a roulé quelques jours lundi mardi
ouais,
parce qu'il y a des équipes qui avaient genre aucun matériel,
c'est
quoi,
ça.
Les mecs,
ouais,
qui...
en fait jusqu'à le dimanche il y avait des box vides et des teams qui venaient même pas au circuit parce qu'ils pouvaient rien faire.
Bon, déjà là tu commences à stresser un peu là.
Ouais, mais même pour expliquer aux gens, en fait, donc le championnat du monde il va dans différents pays, donc on commence par le Qatar, donc toutes les équipes en fait ont envoyé pendant l'hiver au mois de décembre janvier mettre tout leur matériel dans des conteneurs qui vont sur des bateaux, et en fait après le bateau va d'une course à l'autre. Et donc, en fait, là, ouais, les équipes, en fait, elles ont pas leur matériel du mois de janvier au mois de début mars. Et donc, c'est vrai que tu arrives au circuit, si ton conteneur, il a un retard, tu attends, tu restes à l'hôtel, tu te tournes les pouces et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu du retard et le...
Tu penses que ça a pu en pénaliser, ça, justement, de pas avoir leur matériel, peut-être en temps d'installation, de réglage sur la voiture?
Je pense que ça a surtout affecté les mécaniciens et pour avoir un peu moins de sommeil, parce qu'ils ont dû affecter la même quantité de travail en moins de temps. Donc ouais, eux, ils ont dû travailler plus dur.
Mais en fait, j'ai eu l'impression qu'il y a aussi la contre-apposée qui a été vraie, c'est-à-dire l'équipe dans laquelle j'évolue a tout reçu en temps et en heure, et pour autant, en fait, bah, du coup, ils ont eu 2 jours et demi de rab. Eux, ils avaient tout, tu vois. Et du coup, les mécaniciens ont travaillé 2 jours et demi de plus que ce qu'ils auraient fait initialement avant le prologue. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient 36
plus
heures
un avantage pas. Qu'un désavantage pour les autres, en fait.
Bah, en fait, c'est, je sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, mais dans le sens où ils ont eu 2 fois plus de temps pour refaire toute la voiture 50 fois, tout monter, démonter 50 fois. Et en fait, enfin, tu sais, c'est le cerveau humain. Plus tu lui laisses de temps, plus il réfléchit, plus il se crée des problèmes qui existent ou qui n'existent pas. Mais du coup, c'est ça qui s'est passé. Et ceux qui ont eu leur matos en dernier, bah, ils ont rushé et ils ont monté leur voiture. Et ceux qui ont eu du temps, bah, évidemment, enfin, tu laisses pas tes 40 mecs à l'hôtel, tu vois, tu les emmènes sur le circuit, tu leur fais faire des trucs. Donc,
Moi, je crois que Proton, si j'ai bien tout suivi, Proton a eu quelques soucis. Ces voitures sont arrivées un peu, les voitures sont arrivées un peu en retard, les Mustangs de l'écurie Proton. En fait, il y a 2 stratégies, hein, on peut expliquer ça aussi, mais en termes de fret, il y a ceux qui mettent la voiture dans les containers et qui reçoivent leur voiture par voie maritime. Donc c'était le cas notamment des GT, il y a eu pas mal d'équipes GT qui étaient comme ça, et puis il y a d'autres écuries en hypercar, donc la catégorie Rennes, où là les voitures elles arrivent par avion. C'est le cas de Peugeot, je sais que les voitures en tout cas elles arrivent par avion, donc je sais pas si Alpine c'était le cas aussi,
ouais, si c'était pareil.
Mais parce que il y a des délais qui sont tellement courts qu'ils sont obligés de les faire venir par avion, ce qui fait que il y avait vraiment 2 types d'écuries: ceux qui avaient déjà les voitures qui étaient sur place, ceux qui ont reçu les voitures au dernier moment. Et je sais que par exemple chez Proton ça a dû poser problème parce qu'il y avait des évolutions qui sont arrivées sur la voiture qu'ils ont dû mettre au dernier moment sur la voiture. Je crois que c'est avec Multimatic que ça s'est joué, cette histoire.
Après c'est sûr qu'il y a 2 frets différents, comme tu as dit, soit en conteneur soit en avion. Après c'est des coûts qui sont différenciés, donc c'est là où il y a des écuries, des équipes qui ont des avantages par rapport à d'autres parce qu'ils peuvent se le permettre. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre de à chaque fois tout envoyer en avion. Et c'est pour ça que là, des fois, tu as des disparités entre les équipes où tu vois un avantage ou pas. Mais après, ça fait partie du jeu, malheureusement.
Mais bon, quand tu vois que... Donc là, on est mercredi après la course. Hier, il y a quand même un cargo qui a été coulé en mer Rouge. Tu te dis, bon, c'est peut-être mieux finalement qu'on aille par avion. Moi, j'ai entendu parler dans le paddock de 100 000 à 150 000 euros de plus de budget pour ramener les voitures de... Là, peut-être qu'effectivement, c'est quand même mieux que d'avoir la voiture dans le fond de la mer Rouge, pour le coup.
Ouais, peut-être, je prends pas le risque, là. Mais ouais, ça montre un peu l'écart, en fait, du championnat du monde, où t'as 2 types d'équipes, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, 2 types d'équipes, les équipes privées et les équipes officielles. Ou ce qu'on appelle une équipe officielle, c'est une équipe qui va représenter une marque. Donc, tu vas avoir Porsche, tu vas avoir Ferrari, tu vas avoir Toyota, qui je vais rater, Alpine, BMW,
Lamborghini,
qui vont pouvoir avoir les moyens de l'envoyer. Et après, tu auras des équipes privées, entre guillemets plus petites, à taille humaine, comme Jota, là où travaille Bertie, où vous l'avez envoyé par fret.
En conteneur. Ouais.
Maritime, donc moins de temps avec la voiture, et tout ça dans la même course au final, pas forcément avec les mêmes moyens, mais c'est là où l'endurance est ouf, c'est que bah, vous vous êtes battu pour le podium et tu finis devant une des voitures officielles avec une équipe qui est plus petite, avec le même matériel. Vous avez la même voiture. Ça, c'est une particularité quand même du championnat.
Bah, on a, et c'est assez rigolo, et moi c'est ce que j'apprécie aussi dans le championnat, c'est qu'on voit les constructeurs, notamment avec l'arrivée de l'hypercar, par le passé, on avait beaucoup plus à des équipes comme Peugeot et Toyota qui ont la maîtrise de A à Z, entre guillemets, de leur équipe. Parce que Toyota, ils ont leur propre équipe de mécaniciens, Peugeot c'est pareil, mais Ferrari par exemple, ils sont adossés à F-Corse. BMW, c'est le team WRT. Porsche, ils sont adossés à un géant américain qui s'appelle Penske, qui est entre guillemets, un dieu aux États-Unis. Pareil pour Cadillac avec Chip Ganassi. Donc en fait, on a vraiment plusieurs types. En fait, soit on s'adosse avec une autre équipe, soit on construit son équipe soi-même.
Ça, c'est une externalisation, ouais. En fait, et tout. Mais c'est au final, tu dépends du budget du.
Bien sûr, mais tu vois, tu as vraiment des approches qui sont différentes. En F1, je pense que c'est plus compliqué.
C'est pas le cas. C'est chacun a son truc, son équipe, tout est in-house, entre guillemets, comme disent les Anglais. Et tout ça, ça tourne. Mais du coup, c'est intéressant de voir des philosophies d'équipe différentes. Et on va parler de la course parce que vous trois, moi, je suis quand même super jaloux que vous soyez tous allés là-bas, sauf moi. Moi, j'étais à Paris tranquillement dans ma cabine. Et il y a plein de trucs que j'ai vus, notamment sur ta voiture, Bertie, en stratégie, particulièrement des Porsche, que j'aimerais savoir parce que à l'écran, je t'avoue que nous, on a passé 10 heures à regarder des voitures. On voit vraiment que les voitures. On t'a entendu quelquefois. On t'a pas vu sur ton muret ou est-ce que t'es sur la piste? Tu vois, c'est intéressant. Il y a des ingénieurs qui ont des approches différentes. Il y en a qui mettent sur le muret des stands, entre guillemets, donc sur le bord de la piste où ça hurle comme pas possible. Il y en a qui sont à l'intérieur du stand, des approches différentes. Et je pense qu'il faut qu'on mette un contexte de la course. Qui a gagné? Qui a été fort? Quels sont les résultats? Et après, on va aller sur l'inside, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé en intérieur sur les stratégies? Et pourquoi est-ce que, on va dire tout à l'heure que Porsche a été très fort, on l'a vu. Pourquoi est-ce qu'ils ont été forts? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont autant dominé, pas juste la course, mais ils ont dominé le week-end pour moi de l'extérieur? C'est la sensation que j'en ai. Et moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Donc, Guillaume, je te laisse mettre le contexte de la course. Je sais que t'es très fort là-dessus. Raconte-nous qui a gagné, qui est sur le podium, qui ne l'est pas. Qui a abandonné au dernier tour. je pense que c'était quand même un gros truc,
spoil. Moi, je veux tout le classement, Guillaume.
Oh, le classement. Alors, classement par cœur. Bon, on va commencer. La numéro 6. Alors, c'est Porsche qui a gagné. C'est 1812 km du Qatar avec une assez nette domination quand même des Porsche puisque les 963 dès le prologue, donc c'est-à-dire une semaine en amont, ont été devant en termes de temps.
Toutes les séances, ils ont dominé.
Toutes les séances début à la fin. La séance qu'ils n'ont pas réussi à gagner, c'est la troisième séance d'essai libre où Cadillac est sorti un peu du bois. C'était peut-être un peu contextuel aussi, température, vent. Il y avait peut-être pas mal de choses qui ont joué sur cette performance. Mais en tout cas, Porsche a été à l'aise de A à Z sur cette course. On a pu en discuter avec les pilotes. Il y a le tracé du circuit qui a aidé. Il n'y a pas que ça. Il y a une vraie progression de cette équipe. Porsche Penske par rapport à l'année dernière en termes d'exploitation de la voiture, ça va être très important. Je pense qu'on va y revenir toute l'année. Chaque fois qu'on va faire un épisode, on va parler d'exploitation de la cohésion des équipes. Donc Porsche très fort, mais il confirme parce que justement il y a la voiture de Bertie qui est avec sur le podium, qui est la deuxième voiture, la Porsche Jota, la numéro 12, qui fait deuxième devant une autre Porsche, la deuxième Porsche officielle de l'écurie. Donc globalement, une bonne maîtrise de Porsche. Je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un triplé, mais la première fois en WEC.
Je crois qu'il n'y en a eu que trois.
Au 24 heures du Mans, oui, il y a eu un triplé Porsche au 24 heures du
Mans. Il n'y en a eu que trois à l'époque et ça devait être Audi. À l'époque, Audi avait plus de voitures. C'est peut-être ça aussi un peu contextuel.
Oui, c'est vrai aussi. Ouais.
Quand Toyota avait que deux voitures, c'est ceux qui nous ont suivis avant, Toyota dominait le championnat, mais il n'y avait que deux voitures. Donc forcément, ils ne pouvaient pas l'avoir. Là, on a cinq Porsche qui sont engagés. Cinq Porsche. Donc il y a aussi un contexte qui fait que, mais en tout cas, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que les mecs ont maîtrisé de A à Z tout le week-end la performance.
Mais d'ailleurs, pour revenir sur les derniers tours, Bertie, donc ta voiture, elle était... troisième initialement avant que la Peugeot s'arrête, ouais. mais vous aviez quand même une pression d'enfer jusqu'à la fin, puisque tu avais la deuxième Porsche officielle qui était juste derrière toi, qui au final a fait une erreur à un moment, et du coup ça a permis à Callum Ilott de souffler un peu. Si je dis pas de bêtises, il était quand même vachement sous pression à la fin.
Ah ouais, non, c'est sûr qu'il y a c'était Mac Campbell qui pilotait à ce moment-là dans la numéro 5 et qui était plus vite. Ça, c'est
Matt
sûr.
Campbell, c'est le mec qui fait la pole position en qualification.
J'ai l'impression qu'il a survolé le week-end.
Il est en pleine confiance actuellement. Il a gagné déjà Daytona, les 24 heures de Daytona en championnat américain, en IMSA, avec la Porsche déjà. Après, il a gagné aussi les 12 heures de Bathurst en GT.
Qui est une autre course en Australie, qui est absolument exceptionnelle aussi, mais et ça, c'est un autre sujet.
Et là, il fait la pole position au Qatar. Et en course, je crois que c'est le plus vite en course. Donc, ouais, il était très, très, très rapide, Matt Campbell. Mais je pense que les Penske, Porsche Penske Motorsport, étaient un peu plus rapides que les Air Team Jota sur cette course. Il faut l'assumer.
C'est un step en avant quand même de la part de cette équipe. Parce qu'on va y revenir après dans l'analyse, mais c'était quand même...
Tu parles de la voiture ou de l'équipe?
Je pense l'équipe, globalement, puisque quand tu places tes deux voitures sur le podium comme ils l'ont fait, bon, il y a la perfo de la voiture qui joue, mais tu as quand même très peu d'erreurs sur la stratégie pour en arriver là aussi. Il y a eu très peu d'erreurs.
Quand en même temps, quand tu vas jouer un championnat du monde, si tu veux gagner, et là on est sur le plus grand championnat du monde qu'on ait jamais vu, avec autant de voitures, il y a 19 voitures.
19 hypercars, et ensuite il y a
18 GT3 avec un nombre de marques qu'on n'a jamais vu auparavant, on n'a jamais eu autant.
14 constructeurs.
D'aller se mettre là, à ce niveau, tu peux pas gagner une course de championnat du monde en étant mauvais. C'est pas possible, tu peux pas te cacher. Ça, c'est fou, ça.
Et j'allais rebondir là-dessus parce que tu vois, paradoxalement, derrière, on retrouve des voitures où il y a eu des erreurs ou des contacts. La Cadillac, notamment, qui a fait une remontée fantastique. Je pense notamment, bon, je trouve qu'il est au-dessus du lot depuis des années, mais Sébastien Bourdais.
on va revenir.
Là on va me dire, je suis fanboy de Sébastien Bourdais, mais non, je trouve qu'à 45 ans, le garçon fait la leçon à tout le monde et c'est extraordinaire.
Moi, je suis fan de Will Stevens, donc on a chacun notre fanboy.
Et quand tu regardes les datas, alors après, c'est notamment le Bépilar qui est on en parlera souvent du Bépilar, mais qui est un logiciel qui permet d'avoir un logiciel, des data qui nous permettent d'avoir les 25 meilleurs tours.
Ça compile tous les tours d'un pilote.
Voilà, qui compile les tours d'un pilote. Donc, on sait globalement la performance par rapport au moins à ses équipiers. Et Bourdais est largement au-dessus de ces deux équipiers qui sont pourtant pas des manches. Alex Lynn, Urban Burr, c'est quand même pas des rigolos de kermesse.
Et pourtant, il fait pas toute la saison, Bourdais, dans la voiture.
Ouais, mais à Daytona, il était quand même...
On en reviendra sur ces data parce qu'il faut en parler. Et c'est la stratégie de Berti qui me fera en parler. Pourquoi est-ce qu'en endurance, ces data-là, elles sont pas toujours ultra adéquate et représentative.
Il faut savoir les lire
et il faut avoir le contexte en fait et dans tout ce qu'on fait sur une course de 10 heures de comprendre quel est le contexte de la piste, quel est le grip pour vraiment avoir un opinion sur ce qui s'est passé. Pour moi, c'est obligatoire. Sinon, tu peux pas comprendre ce qui s'est passé et tu peux pas comprendre ce que le pilote est en train de vivre à l'intérieur.
Bon, globalement pour Bourdais, je pense qu'on part sur de la valeur sûre quand même, quoi qu'il y a.
Sébastien Bourdais, c'est la seule personne au monde à m'avoir fait pleurer en qualification. Et je te l'assure, je pleurais en qualification aux États-Unis, mid-Ohio. Je prends 7 dixièmes par Sébastien Bourdais dans la même voiture, tout ça en deux virages. Toute la piste, pas trop mal. Il me met 7 dixièmes dans le premier virage et dans la première épingle. Je suis sorti de la voiture. On était dans l'équivalent de l'hypercar aux États-Unis. Je sors de la voiture, je dis, comment t'as fait? Il me regarde, mort de rire, et il dit, bah, l'expérience, quoi. Ouais. J'ai regardé ses vidéos et je vois que l'épingle où je prends 4 dixièmes, un virage super serré à mid-Ohio en dévers un peu bizarre avec des revêtements différents. Mais en fait, il allait super large. Il faisait l'inverse de ce qu'on t'apprend à l'école, en fait. Et il te dit, bah, moi, je connais bien la piste, quoi. Et là, tu fais OK. Toi, t'es un monsieur, quoi, vraiment.
Donc voilà. Bon, jolie digression sur Sébastien, mais ça explique le personnage.
Exceptionnel.
Mais la Cadillac, elle se fait accrocher au départ. Elle fait une remontée qui est quand même fantastique.
Elle finit combien?
Elle finit 4.
Non, quatrième,
hein, c'est ça. Ouais. Derrière, on a une Ferrari. La Ferrari F-Corse qui a pas fait beaucoup d'erreurs.
T'as le temps de regarder les autres voitures, toi? Elle était pas loin de la tienne, donc
je connais pas les classements, les gars, ils vont
ça revient vite, ça.
Donc ouais, derrière t'as la Ferrari 499P, la privée en fait, jaune
qui a gagné les 24 heures du Mans l'année dernière, le modèle qui a gagné le Mans,
c'est voilà. Le modèle qui a gagné le Mans, c'est la voiture qui fait le moins d'erreurs. Et ça, d'ailleurs, ça me fait une petite analyse, mais j'étais un petit peu déçu de toutes les erreurs qu'on a pu voir chez Ferrari. C'était peut-être un peu fébrile.
Aussi,
j'ai trouvé que globalement, dans la gestion de la course, il y a quand même pas mal de petites erreurs où ils perdent beaucoup de temps. Et je pense que les Ferrari, même si elles étaient un peu en retrait en termes de performance, auraient dû être un peu plus haut. Et cette numéro 83 démontre quand même que c'était pas si mal. Puis derrière, il me semble, c'est la première Toyota qui doit faire sixième. Elle était septième initialement et fait sixième et on va venir sur la
Toyota qui a dominé le championnat nous pendant les 4-5 dernières années, peut-être qu'on attendait toujours bien parce que l'équipe professionnelle carré, les mecs ça tourne, quoi. Donc effectivement, ouais, de les voir là, c'était une surprise, et pour tout le monde à mon avis.
Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais globalement, sur la performance de l'équipe, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Donc, c'est vraiment, vraiment ils étaient dedans.
La performance.
Ils ont fait une erreur, je crois, dans les stands où ils ont eu un problème avec un écrou à un moment.
Ils
ont du mal à l'enlever, mais ils n'ont pas perdu beaucoup. Et après, ils ont eu beaucoup de mal avec leurs pneus à le faire fonctionner, en fait, pour expliquer aux gens. Les pneus, ils sont froids, en fait, au début. Les pneus sont aux alentours de 20 degrés.
Il n'y a pas de couverture de couverture.
On n'a pas le droit de
les
chauffer.
De chauffe comme on fait en F1 ou comme on faisait avant, nous, en championnat du monde, il y a 2-3 ans.
Donc, avant qu'ils montent sur la voiture, ils font 20-30 degrés à peu près, les pneus.
Et ils sont en température extérieure, en fait.
Exactement.
Et pour la fenêtre d'exploitation?
Bah, ils sont autour de 70, 90, 100 degrés à peu près.
Okay.
Donc en fait, les premiers tours, pour passer de ces 20 degrés à 80 degrés, là, les pilotes, ils sont en galère en fait.
Combien de tours? Un tour et demi, deux tours?
Ouais, un tour et demi à peu près. Mais le premier tour, tu peux être 10 secondes moins vite qu'un tour normal.
C'est ce que j'allais dire.
Et c'est ça en fait, je pense qu'on serait amené à en parler. Mais du coup, la stratégie des pneus, elle était ultra importante. Puisque quand tu ressortais avec des pneus neufs, bah, en fait, c'est cool de sortir avec des pneus neufs, mais du coup, t'as ton outlap qui est ultra lent.
Ouais. Tu sais que le pneu neuf, en fait, il va te donner un avantage parce que t'as plus de gomme sur ton pneu, donc tu peux rouler plus vite. Par contre, tu sais que tu vas perdre de facto au moins 10 secondes dans le meilleur scénario sur ton tour de sortie. Donc, si tu les récupères pas après, si t'as pas vraiment un avantage, ça se joue, quoi.
Et en fait, c'est ça le problème qu'ils ont eu un peu Toyota pendant le week-end, c'est que des fois, ils essayaient d'aller trop vite dans ce tour de sortie des stands. Et en fait, comme s'il cassait le pneu, en fait.
Overshoot.
On appelle ça du graining. En fait, c'est
T'es en train de dire que tu gères ton tour de sortie, tu le fais pas le plus vite possible.
Tu peux le faire le plus vite possible, mais tu peux prendre un risque que derrière, ça va te coûter du temps et que on appelle ça une mise en chauffe, elle va pas être assez bonne. Et donc, tu vas être très vite au début, mais tu vas perdre beaucoup de temps à la fin.
Ça va te coûter du temps parce que t'as chauffé trop vite et la surface de ton pneu, elle va pas accrocher de la bonne façon.
Ouais, c'est comme si tu mettais, je sais pas moi, une pizza au four et que ton four est trop chaud en fait. Tu vas tout de suite, elle va devenir tout noire, tu vois.
Froid,
exactement.
Ouais. J'aime bien l'image.
Ouais, celle-là, elle est pas mal.
Ça s'appelle du graining. Et ça, Gabriel, qu'est-ce que ça fait quand on est pilote du graining?
Ah, c'est une horreur. En fait, le graining, c'est des petites boulettes de gomme qui roulent sur la surface du pneu. Et la sensation et le retour qu'on fait aux ingénieurs, en fait, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être connecté entre la voiture et le sol. On a c'est ça. Donc, tu as un retour de la voiture qui est super confus parce qu'un virage, tu vas glisser des roues avant et le virage d'après, tu vas glisser des roues arrière. Il n'y a plus rien qui a de sens. Tu prends une valise par tous les gens qui sont autour. Tu ne comprends pas. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si t'as surpoussé, tu sais pas si t'as pas assez poussé. Et c'est là où tu vois que un mec comme Sébastien Bourdais qui a de l'expérience, bah lui, il va pouvoir te dire tout de suite, voilà ce que je fais, je sens ça. Ok, bah moi, j'ai cet outil-là pour aller chercher. En tant que pilote, au début, la première fois que ça t'arrive, c'est panique à bord total. Là, en général, tu prends la radio et t'insultes ton ingénieur en disant, je comprends pas.
T'imagines, là au Qatar, tu partais, tu faisais ta mise en régime. Après, tu partais pour minimum, parce que certains ont fait 3 relais. Donc, tu partais pour minimum 2 fois 30 tours, avec potentiellement, si tu as cassé tes pneus. Et je crois qu'il y a notamment Brendan Hartley en qualif, ça lui est arrivé, où il a flingué son train de pneus avec le graining pendant les qualifs, où il n'y arrivait à rien du tout, parce qu'il est sorti trop vite, justement. T'imagines, tu pars sur 2 relais comme ça, et tu dois te battre avec ta voiture parce que tu n'as aucun ressenti. Aucun feeling, et autour de toi, tu as 19 maboules en hypercar, 18 autres en GT3. Il faut gérer la moins de perte de temps possible. C'est un exercice de fou.
Ah bah, tu pleures, c'est sûr que tu pleures. Hein. Tu pleures parce que tu te sens pas bien, tu vois que la performance va pas, tu sais que tu vas te battre pendant 2 heures, peut-être même plus. Et c'est là où on en parlait du contexte et de toutes les datas que tu peux sortir. Si tu n'as pas le contexte des pneus, et de la température de la piste, bah là, tu vois, typiquement, Brendan Hartley, sur le papier, il va te dire, elle est pas ouf. Nous, on sait très bien qu'un mec comme ça, c'est un mec qui sort de la F1 aussi, qui était chez Toro Rosso à l'époque. C'est un gros pilote, c'est un mec qui a gagné beaucoup de courses en WEC. Tu peux pas juger un relais sans connaître les pneus sur une course. C'est pas juste de juger un pilote sur un morceau de la course.
Et puis surtout, alors, on va juger la performance de la Toyota. Faut quand même se dire qu'il y a 6 mois tout pile, c'était une voiture qui écrasait tout le monde. On en reparlera un peu plus tard, mais il y a un système en endurance qui plaît aux constructeurs, justement, qui permet d'égaliser les potentiels des voitures. C'est la fameuse balance des performances.
On va en parler, ça y est.
C'est le gros mot préféré de Gabriel.
Exactement.
Mais juste rapidement, mais ça permet de d'égaliser. On va partir de ce principe-là, on y reviendra plus précisément une autre fois ou un peu plus tard dans la vidéo. Mais Toyota avait plus de poids que les autres. Et sur un circuit où c'est quand même assez sinueux, où la voiture elle fait 15 kilos de plus que les autres, c'est quand même énorme. Je sais pas combien c'est en dixième de seconde, 15 kilos de plus dans la voiture.
Ah, mais, ça peut faire beaucoup. Hein.
Mais mine de rien, quand t'as ça à gérer, plus tes pneus, tu peux très facilement flinguer ton train de pneus. Et je pense que c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont été sur des œufs pendant toute la course. Quoi.
Ah ouais, après c'est vrai que le poids, pour expliquer aux gens aussi, nous entre la voiture quand on va mettre le plein d'essence, donc le plein d'essence c'est à peu près 90 kilos, et la voiture quand elle est à vide, donc vers la fin d'un relais, juste avant qu'on s'arrête au stand et qu'on remette de l'essence, il y a à peu près une seconde, 1,7 secondes. Donc la différence juste en niveau d'essence, elle est énorme.
Pourquoi on parle en kilos d'essence ? Là, tu as dit que tu mettais 80 kilos d'essence.
Ouais, nous, on parle en kilos d'essence. Après, ça va être en fonction des équipes. Nous, on parle en kilos d'essence parce que c'est une mesure qu'on peut toujours faire. Ça va dépendre.
Un kilo, c'est un kilo. Et voilà, ça ne change pas par rapport au litre qui peut.
Voilà, et en fait, ce kilo-là, en fonction de la température, il va te donner un volume différent. Mais nous, ouais, en termes d'équipe, d'ingénierie, on parle en kilos d'essence.
C'est plus précis et plus constant de parler en kilos.
Et après, on va calculer à quelle température on met 10 kilos d'essence. Ça va nous donner 15 litres, 20 litres, 25 litres.
Et là, tu sais exactement le volume que tu as dans ton réservoir.
Ah, exactement. Exactement.
Donc, pour la performance de Toy, moi, je pensais, et je pour en avoir discuté avec des confrères sur place, mais je pensais vraiment, avec les retours qu'on avait de Michelin, qu'ils étaient capables de très bien gérer leurs pneus et de tenir trois relais avec ces pneus. C'était leur force l'année dernière. Tout le monde s'attendait à ça, mais là, vraiment, ils étaient... À un moment, c'est Kobayashi qui dit en interview, il nous fait, mais on va être complètement à la ramasse. Puis on s'est dit non, il cache son jeu, etc. Toyota, ils ont toujours fait ça en début de saison. Mmh. Bah là, pas du tout. Ils étaient vraiment.
Mais bien. Ça, c'est marrant, ça. Tu vois, les gens, on parle toujours, ouais, qui cache son jeu et qui fait quoi. Tu écoutes les interviews de tous les pilotes, hein. Il n'y en a pas un qui veut se mettre en avant en disant, ouais, je pense qu'on peut gagner la course. Alors que des mecs comme Porsche, honnêtement, bah, si t'as suivi le week-end, t'as regardé les essais libres et la qualif, tu te dis, sauf si un éclair qui tombe sur une Porsche, je vois pas comment il peut pas la gagner. Et c'est un truc de fou. Il y a personne ne veut se mettre en avant. Toutes les courses que je regarde, je comprends pas.
En fait, le truc, c'est que avec cette balance des performances, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Du coup, désolé Gabriel, mais si t'as une voiture ultra dominante en début de saison, en fait, comme on le disait au début, le but ultime, ça reste de gagner Le Mans. Si t'écrases tout le monde en début de saison, bah, en fait, comme c'est, faut le dire, cette balance, elle est revue à chaque fois.
Moi, je suis pas entièrement d'accord. La BOP, et franchement, on pourrait expliquer ça pendant 2 heures. La balance.
On va juste dire peut-être sur quoi ça joue. C'est sur la puissance, le poids, l'énergie que tu vas consommer.
Et l'aérodynamisme de la voiture. Franchement, il faudrait faire un épisode que pour ça, pour parler de ce que c'est, de comment c'est décidé.
On a dit avant le podcast qu'on n'en parlait pas, donc on va faire court dessus.
Et comment est-ce que, en plus, c'est moi qui ai dit que j'en parlais pas. Comment est-ce que c'est décidé et pourquoi est-ce que c'est fait? Globalement, c'est fait pour avoir une plateforme et que tout le monde puisse être dans la même compétition avec des systèmes de voitures différents. C'est pas fait pour qu'un tel gagne une course, qu'un tel gagne une course ou qu'un tel gagne une course. C'est pas la loterie. On va pas jouer un championnat du monde dans un bureau. C'est un argument presque que j'entends des fois dans d'autres mots et que moi, en tout cas, je partage pas. Alors, des fois, c'est tellement un autre domaine. Aujourd'hui, Porsche, pour moi, peut-être qu'ils avaient une voiture qui était un peu au-dessus. OK. Pas de souci. Quand je vois l'application du week-end, et moi, c'est une question que j'ai pour Berti, quand je vois comment est-ce que Jota, je vais prendre l'exemple de Jota, quand j'ai regardé tous les essais libres, il n'y avait pas une minute où la voiture n'était pas en piste, il n'y avait pas un arrêt qui était plus long que l'autre, les deux voitures avaient quasiment le même programme, et en fait, tu te dis, les gars, ils sont arrivés sur la piste, de une, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne posent pas de questions, et chaque pilote fait son boulot par rapport à ce que lui a dit. Ça c'est rare ou enfin comment est-ce que toi t'arrives dans l'hiver à préparer ça et quelle place tu te laisses sur le week-end pour te dire bah j'ai mon programme, si ça se passe mal j'ai tel truc que je peux faire, ou est-ce que tu dis bah non j'ai mon programme, je reste là-dessus et je le fais tout court.
Après je pense que ça va dépendre des week-ends. Là on avait la chance d'avoir donc un prologue, donc le prologue avec un peu plus de temps de piste, plus de temps d'essai. Je crois qu'il y avait 3 heures, une séance de 3 heures, une séance de 5 heures et une autre séance de 3 heures. Donc là, nous, on a des, comme on est une petite équipe, on fait pas beaucoup d'essais privés, presque pas du tout. Donc il y avait des sujets qu'on voulait vraiment tester. On voulait savoir.
Ça, tu sais que tu vas la
voilà.
faire.
Et en fait, ça, nous, en amont, on fabrique nos plans et on sait exactement combien de tours on va faire, avec combien d'essence, avec quel pilote et quelle pièce on va changer. Et en fait, on change cette pièce pas forcément pour avoir la meilleure voiture. On change cette pièce pour avoir des data, avoir des données, comprendre la voiture. Et après, en fait, à la fin du prologue, on va récupérer toutes les pièces qu'on a changées. On va dire, OK, celle-là, elle nous a apporté ça. Celle-là, elle nous a apporté ça. Et en fait, on va dire, OK, on va prendre le meilleur package de ces 3 ou 4 pièces qu'on a changées et on va faire une voiture à la fin. Et après, quand on arrive au week-end de course, où là, il n'y a plus que 3 séances d'essai, là, on a encore quelques systèmes ou quelques pièces qu'on veut changer pour un peu voir la performance. Mais là, on va quand même plus se focaliser sur essayer de régler la voiture le mieux possible pour le circuit.
Tout ça, c'est décidé en amont. Vous êtes combien derrière vous chez Jota à décider de ça?
En ingénieur chez Jota, on est 4 par voiture.
OK.
Donc,
4 à temps plein qui vont parler que de cette voiture-là et qui vont décider de ça avant voilà. d'aller au Qatar.
Donc, comme il y a 2 voitures et les 2 voitures, en fait, il n'y a qu'une seule équipe. Donc, tout ce qu'on fait, on partage tout, toutes les données, tous les plans. Mmh. Et en fait, on prend l'avantage d'avoir les 2 voitures, en fait. Donc, on n'essaye souvent jamais la même chose sur les 2 voitures. On va aller dans 2 directions.
Okay.
Qui va aller plus dur, l'autre qui va aller plus souple. L'autre qui va aller plus haut, l'autre qui va aller plus bas.
C'est presque une approche de curiosité, en fait, quoi.
Ouais. Et en fait, parce que nous, des fois, on a des logiciels de simulation, des choses comme ça, mais ça ne change rien. Il faut qu'on aille sur la piste, il faut qu'on teste avec les pneus, la température de piste. Et tout ça, en fait, il faut qu'on emmagasine des données, que la voiture va enregistrer. Et nous, derrière, on va analyser, voir ce qui se passe et décider quel résultat va être le meilleur pour la voiture.
Puis avec tout ça, avec un degré d'humain qui est quand même vachement important, de cohésion, de discussion avec des pilotes, je suppose. Ouais. Déjà, de savoir communiquer entre ingénieurs, entre mécanos. Là aussi, il y a tout un travail pendant l'hiver où vous êtes ensemble pour...
Mais encore une fois, si tu as la chance de pouvoir faire des essais, donc oui, tu vas tester avec la nouvelle équipe, les nouveaux ingénieurs, les nouveaux pilotes, la nouvelle voiture. Nous, on n'a pas eu beaucoup d'essais pendant l'hiver. Donc là, c'est encore une fois, c'est les premières courses du début de l'année. Tu vas apprendre à te connaître. Il y a dans la numéro 12, 2 nouveaux pilotes. Dans la numéro 38, 3 nouveaux pilotes. Donc voilà, chaque pilote a son style de pilotage. Chaque pilote va préférer avoir un peu plus de train avant, un peu plus de train arrière. Et en fait, il faut apprendre aussi à se connaître au début de l'année. Donc, c'est pour ça aussi, des fois, ça prend du temps. Même une équipe, en termes d'exploitation, comme tu disais tout à l'heure avec Penske, l'année dernière, c'était la première année pour eux. Ils ont eu quelques problèmes. Là, ça commence à rentrer dans l'ordre parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Mmh. Comme une équipe dans n'importe quel sport, il faut apprendre à se connaître, savoir ce que ton coéquipier va faire, comment sa façon de jouer ou ces choses comme ça.
Toi qui étais sur place, Guillaume, et avec tes accès entre chaque équipe, t'arrives à voir ce que Bertie décrit partout ou tu... Est-ce que tu vois une cohésion qui est aussi bonne entre tout le monde ou c'est juste chez Jota où elle est particulièrement bonne?
Je trouve que chez Jota, c'est bon. Chez Porsche, en fait, on voit un peu... Tu vois quand même globalement si les gars s'entendent. C'est des tout petits gestes, mais c'est par exemple les gars qui vont pas se cogner dedans, tout simplement dans les stands, ou qui vont prendre le même outil. Ou tu vois, c'est vraiment des tout petits trucs comme ça que tu vois.
Et tu fais le lien entre ces gens-là, cette relation qu'ils ont... Et le résultat?
Moi, je pense que c'est très lié. Alors, on parlait de la BOP qui... Alors, si on se met d'un point de vue sportif pur, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah ouais, mais on empêche ceux qui sont très bons d'être devant. » Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Comme on dit, la BOP, elle égalise pour moi les potentiels. Mais par contre, ça te met en avant et ça met une pression supplémentaire sur tes pilotes. Et ça te met une pression encore plus forte, je trouve, moi, sur les équipes. Parce que si ton équipe, elle s'entend pas, si ton équipe, on va en parler, mais par exemple, tu vois, je pense WRT qui est en train de se mettre au point avec BMW, pour l'instant, c'est pas très fort.
Parce que ça vient d'arriver, parce que c'est une nouvelle équipe, nouvelle
WRT,
voiture.
C'est vraiment une équipe de tueurs. BMW, ils savent faire des voitures de course quand même.
Les équipages qu'ils ont.
Les équipages, pour moi, c'est probablement les meilleurs.
Mais c'est le
même
début,
si on a des très bons
et tu vois que ça se rôde, quoi. Voilà. Tu le sens de l'intérieur du box.
C'est hyper important parce que tu vas gagner quelques secondes. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un domaine où on a mis toutes les voitures potentiellement dans la même seconde. Même seconde et demie. Donc, la moindre seconde que tu vas gagner sur un arrêt au stand, sur une réparation, mais ne serait-ce qu'enlever un tire-off, si le mécano sait parfaitement ce qu'il doit faire, je caricature, mais
t'as pas d'hésitation en fait, quoi.
Voilà, c'est ça. Et chez Porsche Penske, on voit la différence par rapport à l'année dernière. Tu vois, par exemple, chez Ferrari, je vais te dire, je te disais que j'étais déçu de ce que de l'équipe officielle à Yves Corset. Parce que j'ai vu des trucs qui n'allaient pas dans les stands. On a vu des
genre perdre une aile entière sur la piste.
Ouais. Alors ça, ils se sont fait rentrer dedans. Ils se font toucher par une McLaren, si je me trompe pas.
Ouais, c'est tendancieux, ça.
Après, c'est avec la façon dont l'aileron, il se détache de la Ferrari. Donc, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu la course, à un moment, il y a une des Ferrari. Je sais plus combien elle était à ce moment-là. Peut-être cinquième, quatrième.
Elle était top 5.
Elle perd son aileron arrière complètement qui se détache.
Tout le bloc d'un coup. Pour moi, ouais. Ça vient d'un contact avec une McLaren. Et tu vois, il la touche un peu, donc il déboîte le truc.
Ouais, mais
ce que disait Olivier Gabriel hier.
On n'a jamais vu ça.
C'est qu'en fait, il s'est détaché d'un
bloc.
Ouais.
Et normalement, nous d'expérience, quand tu tapes, tu vas abîmer le carbone. T'as pas... C'est une pièce de 50... C'est quoi, ça fait quoi, 50 kilos?
Ouais, c'est pas, ça va dépendre. Ouais, la voiture, 50, je sais surtout, pas sur la Ferrari.
La Ferrari qui est gigantesque. C'est 50-60 kilos. Tu perds un truc d'un coup, d'un bloc. Mm. Et surtout, l'image qui est dure, et ça revient sur ce que tu dis, les mecs rentrent au stand et t'en vois trois en train de courir à l'arrière du stand. La truc, elle est pas prête.
Et c'était pas préparé.
Ouais, c'était pas préparé.
Alors que tu regardes chez Porsche à l'intérieur, quand on voit la caméra qui arrive là-bas, bah, t'as une à l'avant, une à l'arrière, qui est prête avec les clés prêtes à mettre dessus. Les mécanos, ils ont même pas à aller chercher. Oh, c'est la clé du 8, elle est où? Non, la clé, elle est dessus, elle a une couleur, tu sais comment elle est.
Mais ça, ça demande une certaine organisation. Par exemple, chez nous, je vais dire aux mécaniciens avant chaque séance quel va être l'aileron principal, quel va être l'aileron de secours, quel va être le réglage pour l'aileron principal et quel va être le réglage pour l'aileron de secours. Et comme ça, si tu arrives dans une situation en course où tu dois mettre ton aileron de secours, il est déjà et en fait avec réglé, le bon réglage.
Prêt.
Et ça, c'est important.
C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui a fait la différence pour moi ce week-end. On peut parler de performance qui roule plus ou moins vite. Maintenant, tous ceux qui ont été devant et qui ont performé, les mecs n'ont pas fait d'erreur dans les stands, pas fait d'erreur sur la piste et ils ont déroulé, en fait, pas seulement le samedi au départ, ils ont commencé à dérouler au prologue la semaine d'avant.
Et parce qu'en fait, ça aussi, c'est en amont. Nous, on le sait déjà depuis un mois ou deux mois avant la course. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque séance? Quelle va être la stratégie de la course? Qu'est-ce qu'on pense que va être la stratégie de la course? Et en fonction de cette stratégie-là qu'on veut essayer de mettre en place, ça va définir notre stratégie pour la qualification et nos stratégies et nos plans pour les séances d'essai.
Est-ce que tu penses que les autres marques, elles sont aussi calées? Je veux dire, Lamborghini qui était dans le fond, est-ce qu'eux, ils y sont, tu vois?
Bah, pour l'instant, non. Ils repartent quand même vraiment de loin. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Tout à fait. Non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Quand est-ce que vous avez décidé chez Jota de tripler vos pneus et changer vos pilotes à chaque fois? Ça, c'est une décision qui a été prise il y a...
Donc nous, on est allé tester au Qatar, à Lusail, en décembre.
Après Bahreïn, en fait.
Ouais, après Bahreïn, après la dernière course de 2023. On allait tester là-bas avec, il y avait aussi les Porsche officiels, les Ferrari et les Toyota.
Et les anciens pilotes, du coup? Enfin, je veux dire, quels pilotes, du coup?
Non, déjà les
déjà les nouveaux.
Les nouveaux pilotes. Et en fait, on s'est rendu compte que la piste, elle n'avait pas beaucoup de dégradation. En fait, pour les gens qui ne connaissent pas le championnat du monde, on va mettre des pneus neufs sur les voitures et normalement, les pneus ils vont durer une heure, voire deux heures. Et en fait, sur cette piste-là, comme la dégradation, les pneus ils perdaient presque pas de performance entre le début et la fin, on pouvait aller jusqu'à presque trois heures. En fait,
tu l'avais déjà préparé, cette stratégie que tu as
fait. En fait, on s'est rendu compte que la dégradation était assez basse. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin. Et donc, ça, on le savait déjà depuis le mois de décembre, janvier, qu'on allait essayer cette stratégie-là.
Comment t'expliques qu'il n'y ait pas un autre team pendant le prologue qui se rende compte de cette non-dégradation et qui se dise, je vais tripler?
Après, ça va dépendre.
Peut-être que leur voiture, elle n'était pas capable de le faire aussi.
Ouais, mais chez Porsche, par exemple.
Mais entre les Porsche, elles n'ont pas les mêmes réglages.
Okay,
par exemple, on savait que Penske, ils allaient avoir beaucoup plus de mal que chez Jota à faire ce triple relais parce qu'ils travaillent peut-être un peu plus dur sur le pneu.
Okay.
Donc, ce triple relais, comme on l'explique, ils ne pouvaient pas se le permettre. Parce que dans le troisième, ils auraient peut-être eu des problèmes avec les pneus. Ils auraient peut-être eu une crevaison ou des choses comme ça.
Ouais. Mais du coup, pour expliquer aux gens de manière hyper simple, un triple relais, ça veut dire que chez Jota, vous avez pris le parti de faire à chaque fois trois relais sur le même train de pneus, là où les autres font pratiquement tous des doubles stints, des doubles relais. Donc, en gros, vous
troisième relais, on commence le nom de notre émission quand même très bien. Ça tombe parfaitement avec la stratégie
de Berti. Sens de la répartie.
Tu l'as fait pour ça, en fait. C'est pour
fait
ça.
Juste pour ça. On s'est dit le podcast, ça va être troisième relais. On fait trois relais.
On fait trois relais. Calum Mylod, tu te débrouilles.
J'espère qu'il va pas s'appeler 10 relais dans la saison.
Il y a aussi peut-être le fait que tu peux gagner du temps dans les stands parce que contrairement à la. Enfin, en F1, on change pas les pneus, mais quand tu fais le plein d'essence, tu peux pas changer les pneus, il me semble.
Exactement. C'est interdit.
moins tu changes tes pneus, potentiellement, peut-être le temps que tu vas perdre à ne pas être aussi rapide que les autres, tu peux le gagner au stand.
Mais en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que effectivement, tu gagnes du temps à ne pas changer tes pneus, et aussi du coup, dis-moi si je me trompe, Bertie, mais tu gagnes sur le Outlap dont on parlait tout à l'heure, parce que tu ressors avec des pneus, ok, ils sont pas frais, mais au moins ils sont plus ou moins en température, et du coup, tu perds pas les 10 secondes, ouais. Donc tu perds pas le temps dans les stands à changer les pneus, et tu perds pas le temps du Outlap. Donc en fait, tu gagnes un temps de fou.
Exactement. Mais après, ça va dépendre justement de ta dégradation dans ton troisième relais. Et en fait, c'est tous des calculs que nous, on va faire derrière. Combien de temps on va gagner à changer les pneus, combien de temps on va gagner avec le tour de sortie quand les pneus sont froids, comparé à combien de temps on va perdre avec des pneus qui ont trois relais, ouais, par rapport à des pneus qui ont que deux. Okay, ouais. En fait, c'est tous des calculs qu'on fait en amont. Et après, on essaye de prendre la bonne décision, qui n'est pas toujours la bonne. Des fois, on se trompe complètement. Là, ça a plutôt bien marché, mais Penske, il ne l'a pas fait et a quand même fini devant nous.
J'allais dire, en parlant de bonne décision, ça peut permettre de faire la transition aussi sur une autre équipe qui, pour moi, a bien marché tout au long du week-end, jusqu'on va dire les 8 derniers kilomètres.
Deux derniers tours.
Qui est Peugeot.
Il faut qu'on en parle, et on est obligé d'en parler de cette Peugeot.
Alors, pour commencer, moi, on parlait d'équipes où il y a une sensation de cohésion qui monte.
Ouais.
Pour moi, Peugeot, il y a un vrai pas en avant sur la cohésion.
Okay. Alors déjà, senti là-bas.
Ouais, clairement. Et déjà, ça se sentait. En fait, on sent qu'il y a beaucoup de talent. Ça se voyait moins parce qu'ils étaient un peu moins devant. Mais quand on voit les coups stratégiques qu'ils ont fait aux 24 heures du Mans, alors certes, c'est lié aussi à la plateforme de la voiture à l'époque. Mais ce qu'ils sont capables de faire à Monza, au Mans, où ils arrivent à replacer la voiture devant ou replacer la voiture dans une position où elle avait du mal à être, ça montre quand même que je pense qu'au niveau des ingénieurs pistes et stratégie, il y a du beau monde et ça commence à bien marcher. Et là, on sent quand même qu'il y a un truc qui se fait dans
de l'extérieur. Ouais. Ça s'est vu de fou. Ils ont fait une course, mais un départ en allant doubler la Ferrari à l'extérieur, ils ont mené la course. Et tu te dis, attends, mais est-ce que c'est un coup, une fois, un relais, la voiture, elle va marcher de fou? Non, non, Nico Müller, il a gardé la tête de la course. Nico Müller, il a fait un job de fou. Ouais. Et ils sont restés entre la première et la deuxième position jusqu'à l'avant-dernier tour.
On s'est dit,
magique, les mecs, ils arrivent enfin à faire marcher leur voiture sur une piste qui est particulière, ok. Toi, tu me dis que de l'intérieur, tu sens que les mecs travaillent mieux ensemble, qu'ils se cherchent un peu moins qu'avant. Et merde, quoi, tu une faute comme ça.
Tu te remets dans le contexte. Peugeot a reconstruit une équipe. Ils ne sont pas adossés à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas allés chercher un WRT, un TDS, qui sont des équipes déjà en place, ou un Jota. Ils ont reconstruit leur équipe de zéro. Donc,
ce qui explique pourquoi il y a eu plus de temps.
C'est ça, il faut quand même faire attention à ça.
Et Gabi, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Parce que tu dis, on ne sait pas en fait.
Moi, je suis dans ma cabine de commentaires.
Quel spoil.
Et j'entends Jean-Éric Vergne faire « no power, no power ».
Donc,
j'ai plus de puissance, la voiture à l'arrêt, et tu te dis, non, mais il peut pas nous faire une 23h56, il peut pas s'arrêter à si peu de la ligne après une course comme ça qu'ils ont fait. Et moi, de ma cabine, je comprends pas. Je sais pas si c'est le moteur électrique qui casse, les voitures sont tellement compliquées que franchement, il y a 3 millions de trucs qui, moi, je te dis, la dernière fois que j'ai dit que j'avais no power, au final, je pensais que j'avais cassé le moteur, j'avais perdu une roue. je suis peut-être pas le meilleur mec à je suis pas le mec le plus calé là-dessus peut-être, j'ai entendu des interviews où ils disent qu'il y avait plus d'essence, quoi.
Une petite anecdote d'ailleurs sur à chaque fois que Gabriel a un souci, imaginez que je suis allé le voir dans le week-end.
La dernière
fois que je suis pas allé le voir sur un week-end où on était sur une course ensemble, c'est les 24 heures du Mans et il nous fait un relais de l'espace.
Sixième ou septième, on fait 10 heures dans la voiture. Donc,
tu places la voiture en tête à la fin de ton relais, tu la rends en tête.
Je te vois, je ne te dis pas bonjour.
Je ne
te
salue plus. C'est
voilà. Vite.
Par contre, lui, je vais le voir avant chaque départ.
Donc là, la Peugeot, donc tu disais, Gabi, est tombée en panne d'essence à la fin.
Bah, j'ai bien l'impression, ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit.
C'est une panne d'essence.
Comment tu tombes en panne d'essence? Comment tu peux, à ce niveau-là, déjà, comment c'est possible? Comment est-ce que tu te rates dans ton calcul?
En fait, c'est ça qui est ça le plus dur, je trouve, c'est que c'est difficilement justifiable. En fait, si ta voiture, elle te claque entre les doigts, bon, bah, c'est le principe du sport mécanique aussi. Mais quand c'est l'essence.
T'as fait 9h50 avant, donc. C'est-à-dire que ça marchait bien sur les 9h50 mais avant.
Peut-être expliquez-nous, ceux qui connaissent un peu plus que moi là-dessus,
comment on tombe en panne d'essence.
Comment tu calcules ton fuel? Déjà, tu le calcules pour tenir quoi? 2 tours de plus que la course, pour avoir une marge ou...
Après, ça va dépendre de chaque équipe. Donc, on a des tours d'essence Il y a, en fait, on n'a pas de pression dans les réservoirs. Donc, il y a 200 kilos d'essence dans une tour à 2 mètres de haut. Et avec la gravité, on va mettre l'essence dans la voiture. Donc, à chaque fois, toutes les 50 minutes, on va remettre 80 kilos d'essence dans la voiture. Sauf que là, à la fin de la course, la Peugeot, elle devait s'arrêter pas pour faire un plein entier. Elle devait s'arrêter pour remettre que 15 tours sur 30, par exemple. Je ne sais pas exactement combien il restait de tours à la fin. Donc, c'est là où, en fait, où l'équipe doit calculer combien de tours on va essayer de faire jusqu'au drapeau damier.
On ne sait même pas combien d'essence on va mettre. C'est même pas une question de place où il s'est dit je vais essayer d'aller tirer deux tours en un tour de plus que mon maximum normal que j'ai fait toute la course. Mmh. C'est littéralement, il n'avait pas un relais entier à faire pour finir.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller mettre une seconde d'essence de plus?
Ce qui a fait ça, c'est que nous, on les a mis sous pression, en fait. Nous, on était juste derrière eux à la fin de la course. On s'arrête avant eux.
Ils n'avaient pas prévu de surconsommer autant et d'avoir cette performance?
Je ne sais pas exactement. Donc, nous, on s'arrêtait un peu avant eux parce qu'on sait qu'on ne va pas réussir à les doubler sur la piste. Donc, eux, derrière, pendant 4 ou 5 tours, ils sont tout seuls. Ils doivent s'arrêter après nous, mettre juste l'essence qui est nécessaire pour aller jusqu'à la fin de la course. S'ils mettent trop d'essence, ils vont se retrouver derrière nous. Donc, il faut qu'ils mettent juste la quantité nécessaire pour aller jusqu'au...
Ils veulent garder la position pour rester devant. Et ça, ça les a mis...
Après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour eux, s'ils ont eu un autre problème extérieur ou pas. Mais au final, ils n'avaient pas assez dans la voiture. Donc, ils se sont retrouvés devant nous en piste, mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à l'arrivée.
Ils ont voulu se protéger d'un éventuel overcut de votre part.
Mais alors,
moi,
je me mets en avocat du diable. Tu sais que tu vas tomber en panne parce que tu as des capteurs dans la voiture. Tu le sais que ça va te tomber dessus. T'es deuxième, ok. Est-ce que ça vaut pas mieux de t'arrêter et de perdre deux positions, ou tu te dis, bah, je joue tout, je suis là pour la deuxième place, c'est pas les... peut-être aux 24 heures du Mans, c'est premier ou rien, tu te dis, je la joue. Là, c'est la première de l'année, tu marques des points, c'est un championnat qui est long, c'est un championnat.
19 voitures, il faut marquer des points à chaque course.
Tu passes de quatrième à disqualifié, parce que les mecs sont pas juste derniers, ils sont disqualifiés.
Ça, on peut peut-être préciser sur le règlement, mais il faut savoir que tu dois terminer, tu peux pas terminer en électrique, il me semble, parce que, en fait, ton système électrique ne peut se mettre en marche qu'à partir d'un certain moment. Donc là, pour la Peugeot, c'était 150 km/h. Elle va avoir sa nouvelle version, ce sera 190 km/h, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire qu'en dessous, cette vitesse, t'es obligé de fonctionner au thermique. Et ils sont arrivés en électrique.
Il aurait dû rentrer au centre, en fait.
D'où la disqualification, en fait.
En fait, il a fait deux tours. En fait, c'est ça aussi qui est fou, c'est qu'il lui manquait pas, il est pas tombé en panne sur
lui. Dans le cas du virage.
Et en fait, oui, c'est pour ça qu'il a été disqualifié, c'est que il est parti sur l'électrique. Il a fait le tour 334 et il a relancé le 335. Alors qu'en fait, t'as le droit de te mettre en électrique pour te sauver si t'es en panne, mais tu dois boxer à la fin de ton tour. Et lui, il a pas boxé, il a relancé le dernier tour pour aller passer la ligne. Et une fois passé la ligne, s'il voulait rejoindre le parc fermé pour pas se faire disqualifier, il fallait faire un troisième tour à l'électrique, sauf qu'il s'est arrêté sur la ligne. Et du coup,
je crois qu'il y a une interview après la course du team manager qui était un peu velu.
Et ce qu'a dit Jean-Marc Finot, c'est on a le résultat qu'on mérite, en fait.
Et ça, c'est, dit, là, ça, on c'est a dur, fait une ça, erreur. Comme moi.
On a fait une erreur et on a été disqualifié. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui lui ont tapé dans la main en lui disant
ils ont fait une course de fou. Ils ont fait une course incroyable. T'enlèves 10 minutes, les mecs, ils font une course, personne ne les attendait, aucune erreur.
Et c'est la conclusion de ce qu'on se disait, c'est que la moindre erreur dans le niveau du championnat hypercar aujourd'hui, elle coûte tout de suite
c'est
très
cash.
Cher. C'est une facture, mais on peut en parler à Bertie, mais la pression que doit avoir le staff technique pour la performance de la voiture, elle est immense. Et la moindre petite erreur, tu payes très cher.
La moindre petite erreur, que ce soit dans la voiture, sur le muret ou dans les mécanos au final. Parce qu'on a parlé de Ferrari avec leur mécanicien qui n'était pas prêt à cet arrêt-là. On a parlé de Porsche qui était meilleur que les autres pour moi sur la sur l'exploitation du week-end. Et les pilotes de Porsche et de Jota qui n'ont pas fait d'erreur. Donc en fait, t'as un triptyque de performance où dès que tu fais la moindre erreur sur une des trois, ça tombe. C'est aussi simple que ça. Ouais. T'es au championnat du monde, ça tombe.
La Caddy, c'est l'exemple. Alors, est-ce qu'ils auraient pu se battre pour la victoire? Je pense pas. Peut-être une place pour le podium, pourquoi pas? Ou en tout cas, beaucoup plus proche de la numéro 5 en fin de course. C'est pareil, il n'y a pas vraiment d'erreur pendant la course de la part de l'équipe technique, mais il y a une erreur en piste. Il se fait toucher au départ ou il est touché.
Est-ce que tu considères que pour les prochaines courses, on a vu ce week-end, Porsche, dominateur, on les attend pour la prochaine course qui est à Imola dans un mois, il y a Imola. Porsche, on va les attendre parce qu'ils ont dominé sur la performance et sur l'exploitation. Donc, je pense qu'ils seront bons. Est-ce qu'on attend Peugeot de la même façon qu'on a attendu au Qatar? Cadillac, est-ce qu'on les attend de la même façon? Moi, je pense. que la Cadillac soit très bien là-bas parce qu'elle est légère, c'est une voiture, c'est une piste qui convient à la voiture. Et au final, les mecs, bah, ont pas fait plus d'erreurs à part en piste où t'as pas eu beaucoup de chance. Mais est-ce qu'on attend la Peugeot de la même façon à Imola qu'on l'a vu ce week-end?
Alors non, clairement non, parce que ce sera une nouvelle voiture. Enfin, nouvelle voiture.
Ah oui,
c'est la même coque, c'est le même moteur, c'est sous le capot, c'est la même chose. Mais l'enrobé, on va dire, c'est comme le Kinder Surprise, t'as la surprise. Là, c'est le chocolat, tu vois.
C'est le même jouet, mais t'as changé de recette.
Le chocolat, il a pas la même forme globalement, mais en fait, la Peugeot, ils ont fait un choix il y a 3 ans avec le règlement qui le permettait à ce moment-là, et c'était plutôt cohérent, c'était de faire une voiture sans aileron. C'est pour ça qu'on a eu cette voiture un peu extraordinaire.
Lunaire.
On a l'impression qu'il manque un truc derrière.
Quand elle te double sur la piste, tu te dis, c'est comment ça fait pour tenir?
Mais elle est belle.
Alors au début on avait tous eu du mal, et au final maintenant je me dis on a quand même roulé avec un truc lunaire et qui marche bien, qui a mené une course, qui a mené le 24 heures du Mans, pèse un peu le contexte. Là celle-là, la performance, elle y était quoi. Franchement trop cool de voir un truc sans aileron marcher.
Donc là en fait ils ont dû changer parce que c'est une histoire de taille de pneus à l'avant. Elle avait les pneus de même taille à l'avant et à l'arrière. Et on parle de mise en température des pneus depuis un petit moment. Bah, avoir des gros pneus,
ça c'est net pour eux ça.
Voilà, c'est plus difficile à faire chauffer que des plus petits pneus pour vraiment simplifier le truc. Et donc ils repassent comme tout le monde dans ce qu'on appelle des pneus 29-34, 29 cm avant, 34 à l'arrière. Avant c'était 31-31, et ça va les permettre de se remettre dans la fenêtre de fonctionnement qu'ont la Toyota et la Ferrari. Ce sont des LMH. Ça, c'est encore pour ajouter de la complexité. On s'en reparlera une fois, un autre épisode.
Amateur, salut.
Mais accrochez-vous, ça vaut le coup.
Ah, mais c'est une belle conversation qu'on a là, parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de l'humain chez Porsche, pourquoi ça marche. L'humain chez Ferrari, pourquoi ça marche pas. Il y a bien sûr la vitesse, celui qui gagne la course, aussi celui qui roule le plus vite. On a parlé depuis tout à l'heure, ça fait une heure et quart qu'on parle déjà. Ça fait une heure et quart qu'on parle. Et on a juste donné le dessus de l'iceberg de la course. On a la chance d'avoir des mecs qui sont sur la piste dans tous les garages pour toi, Guillaume. Toi, chez Alpine, Franck et Bertie qui opèrent une voiture. Donc, on a pu parler de ce que nous, on a vu. Derrière, il s'est passé... C'est-à-dire qu'on change d'invité et on prend quelqu'un qui était chez Lamborghini, par exemple, où eux, ils ont une course qui était vraiment désastreuse. BMW... qui était plus dans la performance, mais qui était invisible, entre guillemets, parce que milieu du peloton, on les interviewe, on va avoir les mêmes anecdotes. Eux ont pas la même perception de la course, parce que toi, t'as fini deuxième et que eux, ils ont pas dû kiffer leur week-end de la même façon, je pense.
Après, je pense qu'ils avaient pas les mêmes objectifs aussi.
Ils ont pas les mêmes objectifs, clair. Mais c'est intéressant, tu vois, d'aller chercher chacun. En une heure et quart, on a parlé de, allez quoi, 5% de la course. On n'a pas eu le temps encore de parler des GT3, on n'aura pas forcément le temps d'en parler sur un format d'une heure et demie. On pourrait parler de ce qui se passe et des humains qui sont derrière pendant 6 heures. Juste pour pas, on pourrait parler aussi longtemps que la course.
Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, qu'en championnat du monde d'endurance, donc tu as la voiture, tu as les 3 pilotes, tu as les ingénieurs, tu as les mécaniciens, mais tu as aussi les physios, les personnes qui s'occupent de la nourriture, parce que la nourriture, elle est aussi super importante. Il faut que tout le monde ait de l'énergie.
Ferrari, c'était ma...
Tout le monde ait de l'énergie pour durer 10 heures, les team managers. Et au final, il faut que tout cet ensemble de personnes, chaque personne dans une équipe a un rôle particulier. Il n'y a pas deux personnes qui vont faire le même travail.
Tu viens de le dire, sur la nutrition, on parle toujours des pilotes qui sont au centre en fait, de l'attention. Mais je me rappelle d'une anecdote chez Jota où le physio de l'équipe, pas le physio des pilotes, il y a un physio pour l'équipe entière, avait installé, entre guillemets, c'est pas de machine, mais avait mis sur chaque personne de l'équipe, Pete, des capteurs de glucose sur chaque ingénieur pour savoir leur niveau de fatigue, leur stress, mais leur taux d'énergie en live quasiment, et adapter la nutrition à chacun par rapport à leur taux de glycémie, leur variation glycémique. Donc tu vois à quel point tu pousses le détail,
c'est génial,
sur chaque mec.
Je te rends compte pour la lucidité, mais parce que quand il faut prendre une décision, imagine t'es au Mans, on se met en position, t'es à Mulsanne, la numéro 12 qui crève. Quelle décision tu prends? Comment tu vas rattraper ça? Est-ce qu'on refait le plein? Est-ce qu'on change de pilote? Est-ce que tu dois décider tout ça? Mais...
Moi, dans la voiture, je pars du principe que c'est pas moi qui prends la décision. C'est-à-dire que je dis ce qui se passe, je donne le contexte de la piste, il pleut, et je rentre pas au stand parce que je me dis, si je rentre au stand et que personne est prêt, bah, peut-être qu'on peut passer plus de temps. Sauf s'il y a un pneu qui vient de voler dans le dernier virage, là, je m'arrête. Mais c'est-à-dire que moi, je fais 100% confiance à mon ingénieur. Tu vois, ouais, il vient de
on a une histoire au moins.
C'était après le dernier virage, ok? La crevaison, elle était trop tard.
Non, mais même, il y en a une dans les Noudières où un pneu qui
celle-là,
explosé.
Elle était trop tôt, celle-là.
Mais pas le tien.
Si, le mien. Ah. Le pneu qui a délaminé à 320 km/h au bout de la ligne droite.
Ah, c'est bien ça.
Ah, bah, j'ai retrouvé la moitié de mon aile à 10 mètres de haut. Et ça fait tout drôle.
Et en fait, c'est pour ça aussi qu'en endurance, en termes d'équipe, c'est là où il y a les équipes qui sont bien organisées et d'autres qui sont un peu moins bien organisées. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Toujours te mettre dans une situation et te dire, s'il se passe ça dans le prochain tour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, ça, en termes d'ingénieur, c'est un petit peu notre. On pense à ça tous les jours.
Plan A, plan B, voilà. Plan C.
On dit, bah, ok, prochain tour, il y a un drapeau jaune. Prochain tour, il y a un pneu qui explose. Prochain tour, il y a un moteur qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Et ça, c'est super important de penser parce que si tu es premier et qu'il ne se passe rien et tu te relaxes, tu ne peux pas, en fait. Tu es toujours en constante réflexion de c'est quoi la prochaine étape.
Et là,
ça, c'est super important.
Tu nous parles de la prochaine étape. La prochaine étape, pour vous, c'est Imola, c'est dans un mois. Est-ce que toi, t'as déjà ton plan quasiment d'action qui est presque établi? T'as appris déjà ce qui s'est passé la semaine dernière, parce qu'on est quand même frais, on n'est que 3 jours après la course. Est-ce que t'as déjà établi ce que tu voulais faire, tes objectifs pour la semaine prochaine? Pour la prochaine course, pardon.
Bah là, on va déjà analyser la course du Qatar.
Ça dure combien de temps, ça, la partie d'analyse?
L'analyse, ça peut durer une à deux semaines.
Ok.
Ça peut durer même jusqu'à la prochaine course, ça peut durer un mois. En fait, on va analyser, voir... se focaliser sur les parties où on a perdu du temps, en fait. Ça sert à rien de se focaliser sur le positif, on va se focaliser sur le négatif.
Ça c'est fort, parce qu'on dit toujours l'inverse. Quand tu écoutes un athlète, non, mais on va prendre le positif, il vient de nous dire l'inverse. On va prendre le négatif et on va l'améliorer.
Ça, et en fait, on va voir là où est-ce qu'on a perdu du temps, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et en fait, sur ces choses-là, on va travailler dessus, analyser les données, la stratégie, les pilotes et tout ça. Et on va se dire, ok, la prochaine fois, il va falloir qu'on essaye de faire ça différemment pour justement améliorer ce qui n'a pas bien marché au Qatar. Donc là,
tu vois que c'est un vrai ingénieur, parce que la base du problème, c'est quand même de résoudre des problèmes. Donc, on en trouve, on a des problèmes, on va les résoudre.
Exactement.
C'est vraiment ça l'objectif. Ouais. C'est marrant comment tu...
Il y en a qui trouvent des problèmes aux solutions, mais lui, c'est l'inverse. Tu vois.
Il trouve des solutions aux problèmes. C'est bien, il fait son boulot.
Ouais. C'est pour ça que ça marche. On a parlé de cet humain, et à mon avis, BMW, ils n'ont pas la même approche. Parce qu'ils n'ont pas fait la même course, donc peut-être qu'ils vont solutionner d'autres trucs. Tu as eu 3 mois pour préparer ton hiver, vous. L'avance que vous avez pris en début d'année, eh ben, il va être difficile à rattraper sur la fin, quoi.
Après, le championnat, il va être long. Il y a encore 7 courses à participer, des courses longues. Donc, il va falloir scorer à chaque course. Mais je pense, comme je disais tout à l'heure, Lamborghini, BMW ou Alpine, ils ont des objectifs complètement différents de Toyota, Ferrari et Porsche.
Alpine qui a fait une course de ouf arrivant,
Alpine, super
première course.
Hein.
Je sais pas comment ça s'est vécu de l'intérieur pour toi, mais nous de l'extérieur, on était trop contents.
C'était en fait, c'était agréable. Ce qui était agréable, pardon, c'est que c'était assez serein. C'était Signatec est quand même une équipe qui participe au championnat du monde d'endurance depuis sa création, encore une fois.
Signatec, c'est l'équipe qui s'occupe d'Alpine
c'est l'équipe
dans le championnat du monde.
Mais d'ailleurs, on n'a plus le droit d'en parler. Mais non, maintenant, c'est Alpine. Et non, effectivement, ça s'est bien passé. En fait, il n'y a pas eu de panique. Après aussi, la stratégie était d'être ultra safe. Le but, ce n'était pas de gagner 5 positions au départ. C'était juste de ne pas avoir de contact, de dérouler. Et surtout, la fiable, de finir les 10 heures de course avec les 2 voitures. En avoir une dans les points, c'est vraiment un extra bonus, quoi.
Ça a payé de ouf. Et ouais. Ça s'est vu. Franchement, j'étais content de les voir. Et tu n'as pas eu de... De l'extérieur, ça rejoint ce que tu dis, il n'y a pas eu de panique, pareil, ça a marché. Bien de voir des Français avec une nouvelle voiture arriver, c'est pas simple, et c'est la meilleure nouvelle voiture dans la course.
Ouais, ça, et puis elle a l'air d'être bien née, enfin, pour expliquer aussi, c'est une voiture, le principe du LMDH dont fait partie, c'est qu'on a des châssis communs, en fait. Par exemple, BMW, Cadillac, ils ont un châssis qui est construit par la même personne, enfin la même entité qui est Dallara. Pour le cas d'Alpine, c'est la même entité qu'Acura qui l'année dernière a quand même gagné à Road America et non, Road Atlanta pardon, petit Daytona. Le Mans et à Daytona. Donc c'est une voiture qui a tout de suite prouvé qu'elle était efficace. Alors certes avec quelques petits détails qui ont posé problème après dans la réglementation, mais la voiture en elle-même elle est saine. C'est une voiture qui visiblement se comporte bien, qui aurait peut-être quelques bons arguments sur la chauffe des pneus aussi, semble-t-il. C'est une de ses qualités, en tout cas de ce que j'avais pu entendre ci et là chez Acura. Donc voilà, une bonne voiture qui est bien née. Je pense une équipe, ouais, comme tu disais, qui est plutôt expérimentée, avait bien en place depuis quelques années. Quand même.
Vous vous attendez à quoi pour Imola, tu penses?
Je sais pas, moi je vais pas parler au nom de l'équipe, hein, je pense la même chose. Objectif, finir la course, et si on peut mettre une voiture dans les points, why not?
Trop mal.
Je pense que c'est ça l'ambition. Et après, c'est aussi de regarder ce que font les newcomers. Enfin, il y a BMW, Lamborghini, Isotta. Bah là, Alpine était les premiers des newcomers, donc c'est positif. Et je pense que l'objectif, c'est toujours de... Enfin, je veux dire, c'est les gens avec qui on peut se comparer facilement. Le but, ça va pas être...
Tu vas pas te comparer à Toyota, Ferrari ou Jota qui est là depuis longtemps avec une voiture qu'ils connaissent, quoi. Ça, c'est sûr.
Impossible.
Après, Imola, ça va être complètement différent.
Ah ouais, t'attends une course à l'envers de ce qu'on a
là,
vu.
Là, on n'a pas eu un seul safety car. Ouais. Où, là, il va y avoir des safety cars à répétition.
Il n'y a pas eu un accident. Pour toi, en stratégie, en fait, t'avais quasiment rien à faire.
Il n'y a eu aucun incident. Ouais, c'était... Enfin, quasiment aucun incident.
Ah ouais, non, là, c'était... Là, il va y avoir de l'action à Imola. C'est sûr qu'il va y avoir des accidents. Enfin, moi, je pense qu'il va y avoir des accidents.
Ouais, donc, en fait, il faut que
mais ça, c'est
Imola,
de la
quoi,
nature du circuit. Il faut venir voir. Ça va être.
Pour le coup, les track limites, tu prends pas une pénalité. C'est tu te pénalises tout seul.
Ouais, bah, il n'y a pas de sortie de piste à Imola. C'est une piste. Ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est une piste qui est au milieu d'une ville, littéralement. Vous êtes au milieu de la ville, vous passez entre des maisons presque. Hein. C'est une piste à plein temps, elle est toujours là, mais vous êtes à l'ancienne. Quoi. Tu sens une histoire quand tu arrives sur la piste. Et là, d'avoir Ferrari, Lamborghini en GT et en hypercar à Imola, on a dit, il va y avoir une ambiance, mais de malade mental.
C'est clair, ouais.
Tu parlais de Lamborghini tout à l'heure, tu disais qu'ils ont eu une course désastreuse. Je serais pas aussi catégorique dans le sens où ils sont à l'arrivée, ils ont accumulé des kilomètres, je crois qu'ils ont eu un problème de suspension, si je me trompe pas. La voiture, elle est quand même neuve de A à Z. C'est un châssis Ligier à la base qui courait pour la première fois en compétition. Le fait qu'ils soient à l'arrivée, sans avoir eu des graves soucis, d'avoir accumulé les kilomètres, je pense que c'était leur objectif. C'est sûr, par rapport aux autres, c'est moins bien. Mais il faut pas oublier que
t'es dans le championnat du monde, donc c'est le plus de problème, c'est quand tu vises un truc qui est pas top, on te voit pas, quoi.
Ben voilà,
on te voit
ça.
Pas, c'est ça qu'il faut.
C'est, tu sais, comme quand t'étais à l'école, t'avais ceux qui avaient 19 sur 20 tout le temps en maths. Toi, t'étais content avec ton 12 sur 20. Mais en fait,
personne t'a vu, quoi.
Tes parents, ils te disaient pas bravo à la fin, quoi. C'est ben ça. Là, c'est un peu pareil. Mais ouais. Pour l'instant, c'est ça. Mais il faut, pareil, on construit sur le long terme, chez Lamborghini. Ils sont là pour quelques années. Il y a encore à construire une équipe aussi, une façon de travailler. Donc, je serais pas aussi sévère avec eux. Je suis un peu plus sévère, par exemple, avec Isotta Fracini.
Ouais, mais bon, ça, c'est un autre sujet complètement à part, quoi, les Isotta Fracini.
C'est un projet qui est, moi, je trouve ambitieux et culotté, mais ils sont...
Un projet qui est bancal, pour moi, voilà. Je veux dire. Hein, c'est un projet qui est né un peu de travers, qui a tapé du pied. On pourra en revenir longtemps sur le sujet.
Calmez-vous,
mais...
messieurs.
Non, je ne me calmerai pas. De toute façon, je pense qu'on a vu à l'écran que il n'y a pas grand-chose à espérer pour une voiture qui est quand même rentrée sur la piste en février, je crois, 2023. Donc, l'Alpine est arrivée sur la piste presque 6 mois après. Tu vois une différence de performance. Moi, j'en attends rien. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que la course à Imola, elle va avoir rien à voir. Et aussi bien, on peut se retrouver avec une Cadillac qui gagne, Porsche qui sera quand même dedans, Toyota, si ça se trouve, pour moi.
Je pense qu'ils seront mieux.
Ouais. Toyota, ça se trouve pas mieux parce que, la voiture est lourde et qu'elle convient pas plus à cette piste-là. Après, je ne sais pas. Si ça se trouve, ils vont avoir de la stratégie qui va faire que ça va les mettre devant.
Il va y avoir beaucoup plus de stratégie. Là, il y avait trois voitures dans le même tour seulement. Après 10 heures de course, là, je pense qu'il y aura 10 voitures dans le même tour après 6 heures.
Et puis tu pars sur 6 heures. Est-ce que tu pars différemment sur 6 heures que sur une course de 10 heures, toi qui as été pilote?
Bon, dans la voiture, tu l'abordes un peu de la même façon parce que si tu rentres dans la voiture pour 1, 2 ou 3 relais, c'est la même chose. En fait, que ce soit 10 heures, tu recommences des courses presque un peu différentes. Tu vas pas te positionner de la même façon. Si tu roules 24 heures, t'as 4 heures du matin, tu sais que tu vas prendre un peu moins de risques. Mais sur une course de 6 heures, une course de 10 heures, maintenant dans un championnat du monde avec 19 voitures, t'es à fond tout le temps, en fait. T'es juste à fond tout le temps.
En fait, c'est ça aussi qui est ouf, c'est que l'endurance, j'ai l'impression qu'elle a changé. Il y a quelques années encore, on était sur tu vois, en LMP2 notamment, t'es au Mans, c'est si je déroule ma course, que je tape pas, que j'ai pas de soucis, automatiquement je vais, enfin pas automatiquement, mais je vais chercher un résultat correct, tu vois, mais là, pas en super performant, juste en En étant safe.
En finissant. Tu finis, tu te dis, je suis dans le top 5.
Alors que
c'est
maintenant,
tu
peux plus te permettre d'attendre que les autres fassent des erreurs pour performer. Ça devient en fait des courses sprint d'endurance, quoi. C'est un peu loufoque de dire ça, mais.
Mais c'est carrément ça. Ouais. C'est un sprint longue distance.
Moi, j'avais une question aussi pour vous qui êtes en interne des équipes. Est-ce que le rapport à la qualification, il a changé? Parce qu'auparavant, quand on se qualifiait, même si tu te qualifiais mal, au pire, tu étais 6e, 7e, 8e. Là, si tu te qualifies mal, tu es 18e. Est-ce qu'aujourd'hui, la track position, comme disait c'est Makovieki qui me parlait de ça, est-ce que la position sur la piste au départ, elle va devenir vraiment stratégique? Elle a une influence beaucoup plus forte qu'avant sur ta course?
Ouais, ça c'est sûr. Après, comme on disait au tout début, avec la nature du circuit de Qatar, c'était super important de partir devant parce que c'était très très difficile de doubler, presque impossible. Imola, je pense qu'il y aura un peu plus de chances de doubler. Donc peut-être que partir un peu plus loin va pas être aussi pénalisant qu'au Qatar, mais c'est sûr qu'il faut partir devant. Il faut partir dans le top 5, top 6 pour viser un podium.
Donc on va faire plus d'efforts sur la qualif que par le passé?
Tu fais toujours des simulations de qualification, normalement en essai, des choses comme ça. Après, la voiture, entre la qualification et la course, elle est quand même très similaire. Il y a quelques différences, mais elles vont être minimes. Donc, si tu as très une bonne voiture pour la course, tu as une très bonne voiture pour la qualification. La différence, c'est pas le jour et la nuit.
On pourrait rester là à parler entre nous pendant des heures. On a parlé de la catégorie hypercar. Il y a toute une course qui s'est faite en GT3. On est déjà à 1h30 d'épisode. Je pense pas qu'on ait le temps de parler particulièrement du GT3 maintenant, sauf si on repart sur un épisode de 3 heures. Mais ça montre qu'il y a plein de trucs à dire. On pourrait en parler encore 3 heures. Peut-être qu'on refera un épisode en fait sur le GT3, même si on n'avait pas prévu de le faire sur la course du Qatar. En tout cas, la prochaine échéance pour nous tous, c'est Imola, dans un mois.
C'est Imola, tout à fait. On se retrouve tous là-bas.
Moi, j'ai des pizzas et des pâtes.
Ouais, moi, ça me va. Écoute, je serai soit aux antennes de l'équipe pour ma part, soit avec vous sur le plateau, sur la piste. Peut-être les deux. Peut-être les deux, on verra bien. Mais en tout cas, content d'avoir eu tout le monde ici, content d'avoir échangé sur des perspectives différentes. Comment est-ce que chacun d'entre nous a vécu la course à 3 endroits, 4 endroits différents. Et puis, on va se retrouver pour d'autres épisodes au cours de la saison.
Avec grand plaisir.
C'était super cool, ouais.
Avec plaisir.
Ouais, et ben voilà, c'est la fin de notre premier épisode, 3e relais. Merci à tous et puis on se retrouve en tout cas au moins au plus tard pour la prochaine course à Imola pour en débriefer de la même façon, peut-être un peu plus longuement, peut-être un peu différemment, mais ça conclut notre premier épisode. Merci à vous.
Merci.
Le rendez-vous est pris en tout cas.